or they try to.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon émission Véridisco, une émission où je reçois quelqu'un qui vient et qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie. Et aujourd'hui, alors je reçois, j'ai noté dans la commande humoriste, autrice, podcasteuse. Est-ce que ça te va, Fanny ?
Bah écoute, ça me va bien. Par contre, je viens de comprendre le Véridisco.
Ah ouais, t'as compris que maintenant là ?
Mais en
bon,
fait,
bah,
je l'avais jamais vu que écrit et du coup, je me disais, tiens, c'est quand même bien curieux comme nom.
Ah oui, c'est curieux. En fait, c'est une double ref. C'est une double ref. La ref, c'est d'abord un morceau des Daft Punk, avant tout. Et puis, ce que ça évoque dans l'idée de la discographie, etc., en fait, et de la vie de l'invité, la vérité, tout ça, j'aimais bien tout ce que ça représentait comme nom. Oh là là, elle réfléchit déjà. Ça, c'est une personne qui écrit au quotidien. C'est une personne qui écrit au quotidien. Non, mais je suis trop content de te recevoir. Tu étais déjà venue sur cette chaîne, Fanny. Il faut le raconter aux gens. Il y a un peu plus d'un an pour tout autre chose. Quelque chose dont on va...
Alors, et pourtant si proche.
Et quelque chose dont on va sûrement parler, je pense, aujourd'hui. Regarde, j'ai fait exprès de porter mon t-shirt aujourd'hui pour toi. Évidemment.
Ah, beau
bah
gosse.
Ouais, beau gosse, je sais. Parce que t'étais venu pour faire un React Star Academy en compagnie de Anna Silly Boy Blue. C'était trop bien, on s'était trop marré. C'était le gros zbeul, mais le bon zbeul, quoi. C'était vraiment bien n'importe quoi. Et j'avais vraiment adoré. Et du coup, bon, là, l'invitation, enfin, que tu viennes nous raconter les morceaux qui ont marqué ta vie, ça fait depuis un moment que je voulais t'inviter. Et puis, bah, du coup, je suis trop content que tu sois là avec nous ce soir. Comment tu vas ?
Bah écoute, ça va bien, là je me relève d'une sieste, donc ça va très bien.
Bah tranquille. Donc cette émission, je la commence toujours de la même façon, c'est toujours la même chose. Je pose toujours la même question, au début il n'y a pas de jingle, il n'y a rien, c'est une discussion tranquille pendant 2 heures avec mon invité. Et ma première question, c'est toujours celle-ci. Quel est ton tout premier souvenir musical, toi Fanny, aussi loin que tu puisses remonter dans ta mémoire?
Alors moi j'ai une très mauvaise mémoire et j'ai tendance à confondre toutes les années. Donc honnêtement, le premier, je sais pas, maintenant j'ai quelques moments importants, genre je me rappelle du moment où j'avais acheté le maxi de David Charvet et que j'étais dans ma chambre et que je mémorisais les paroles et je le chantais à côté de ma radio et tout. Et évidemment, j'avais un poster A4 de David Charvet que j'avais eu dans le set extra et je l'embrassais sur la bouche pour m'entraîner à embrasser.
Aïe.
Yes.
Ah bah, il y a tout qui va déjà utiliser le terme « j'ai acheté le maxi », tu sais, de David Charvet. Genre,
oui, la... jadis.
Ouais, jadis, tu vois, j'adore. Mais... le poster était intégré dans le maxi ? Ou c'était le...
Non, il était dans le set extra, c'était un magazine un peu comme Fan 2.
Ah yes, ouais. C'est quoi, c'est un toi, parce que tu es belge, c'est ça ?
Tout à fait.
Tu es né en Belgique. Et donc, du coup, c'était ouais, l'équivalent du Fan 2 en Belgique, du coup, set extra.
Ouais, c'est ça, c'était un petit magazine People où il y avait... Il y avait des posters. Une fois, ils avaient fait une action pendant un mois. Chaque semaine, tu avais un poster d'un membre de Kyo en grandeur nature. Incroyable.
Bah, les Kyo, hein, on les adore ici. Hein. Nous, on est fans de ce groupe ici, hein, tu sais.
Évidemment.
Bah oui, les Kyo. Ça... Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. Hein. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître parce qu'en plus, comme on regarde la Starac sur cette chaîne et que c'est des artistes qu'on voit, du coup, David Charvet a eu un ticket sur les 3 premières saisons de la Starac pour venir. Chaque année, littéralement. Donc, c'est quelqu'un avec qui... Tu sais, on a un attachement émotionnel maintenant, tu vois. On a vraiment... Il y a quelque chose de très, très fort. Et c'est quelque chose que... Parce que c'est ton premier souvenir. C'est des musiques que tu écoutais à la radio. Ou alors, comment tu découvrais les morceaux, toi, quand tu étais petite?
Bah, honnêtement... Ah si, j'avais les chaînes genre MTV, MCM et tout. Et je mettais ça. Et du coup, il y avait beaucoup Laurie, Alizé et tout, qui étaient vraiment les femmes de ma vie, évidemment. Et un des souvenirs aussi qui m'a beaucoup marqué à cette époque-là, c'est que je me rappelle quand je devais avoir genre 7-8 ans, je mettais MCM ou MTV en fond. Et genre, je le laissais tourner jusqu'à ce qu'il y ait Laurie. Et quand il y avait un clip de Laurie, j'allais vite voir parce que je comptais ses danseurs. Comme ça, je savais que moi, quand je serais chanteuse, j'aurais le même nombre de danseurs que Laurie, quoi.
Ah.
Ouais. Je pensais déjà au taf avant tout.
Tu te voyais déjà... Ouais, tu pensais déjà au taf de prod, quoi. T'étais déjà...
Ouais, c'est ça.
T'étais moi, déjà dans la prod.
On va devoir payer 6 temps plein, comment on va faire dans ouais. ton bus.
Ah, ça va être compliqué, la masse salariale là-dedans. Il y a peut-être des gens qu'on va payer aux blagues dans l'histoire, je pense. Vous avez MCM en France? Ouais, ouais, on a MCM, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. On avait, moi, c'était sur le câble, je crois. C'était sur CanalSat, en fait. CanalSat, ou... Enfin, bref, c'était des chaînes qu'on avait un petit peu... bah, comme vous, je pense, non, MCM, vous aviez un système genre télévision, abonnement, c'était pas c'était inclus, c'était moi, c'était les parents qui payaient, quoi, en gros, t'avais des... Nous, on avait à la base 6 chaînes, l'époque où en France, il n'y avait pas la TNT, et pour avoir plus de chaînes, en fait, il fallait littéralement payer des bouquets avec des chaînes en plus. Donc, t'as beaucoup découvert la musique par la télévision, en fait.
Ouais, ouais, je pense qu'à cette époque-là, oui, parce que chez moi, on n'écoutait pas tellement la radio. Et puis j'ai découvert énormément de choses dans la Starac aussi. En vrai, vu que je regardais la Starac, pour moi, il y a des chansons. Je n'imagine pas que ça puisse être une chanson originale de quelqu'un. L'autre jour, j'étais dans un café en train de bosser et j'ai entendu la version originale de La Musique. J'étais là, mais pardon.
De Nicoletta, oui.
Mais c'est ridicule, en fait. D'où quelqu'un a l'audace
de reprendre Mario, Jennifer et Jean-Pascal, c'est ça, tu vois.
Mais c'est ce que, ça, quoi.
C'est ce que tu es en train de te dire.
C'est réservé à l'élite, normalement.
Mais ouais, en fait, mais ça, c'est un truc dont on a souvent parlé sur les émissions de télévision type télécrochet, que mine de rien, ça nous a permis de découvrir vraiment beaucoup de sons. Moi, je me souviens que c'était Video Kill de Radio Star sur la saison 2 de la Starac, où pour moi, tu vois, c'était une chanson qui avait été écrite pour eux, tu vois. Je connaissais ni les Buggles... ni toutes les années 80. Non, ouais, c'est ça. Et donc du coup, pour moi, c'était vraiment une chanson Starac compatible. Et à la maison, t'avais des parents qui écoutaient de la musique ou pas?
Je voyais pas beaucoup mon daron, mais quand on se voyait, il écoutait pas mal de rock, Noir Désir, Indochine, du vieux rock français, enfin, du rock français qui maintenant est un peu vieux, mais il écoutait pas mal ça, téléphone et tout. Et sinon, ma daronne, elle écoutait. Pas des trucs très très cool, genre c'était beaucoup Natacha Saint-Pierre dans la bagnole, tu vois.
Ouais.
Mais c'était malgré tout assez plaisant parce que Mourir Demain, c'est quand même le sommet, je pense, de la chanson.
Mourir Demain, elle est exceptionnelle, elle est trop bien. Hein.
Ouais.
Mourir Demain, j'adore ce morceau, il est trop trop cool. Donc, il y a un truc que je me rends pas compte, je pose toujours la question parce que pour moi, en Belgique, vous avez une scène musicale énorme. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a quand même une énorme importation de sons français. Il y a quand même une grosse importation, en fait.
En fait, maintenant, on a une grosse scène belge qui commence... on commence à être un peu plus chauvin là-dessus, mais il y a plusieurs années, vraiment, c'était balèque totale et on faisait que regarder les programmes français, les chanteurs français. C'était TF1 à fond de balle. Et,
okay.
En termes de découverte, la Belgique est très frileuse et c'est que quand les artistes commencent à percer en France qu'on commence à reconnaître leur talent en Belgique.
Ah ouais, c'est marrant, ça.
Ouais, donc il n'y a pas, tu vois, genre TF1, on n'a pas toujours d'équivalent belge. Ils ont fait une saison de Star Academy belge. C'est impossible de retrouver le moindre extrait, où que ce soit, tellement c'était horrible.
Parce que là, excuse-moi de lire, mais tu attises ma curiosité là. Là,
ben je oui, suis non, vraiment.
Fanny Grézy encore? Fanny Grézy? Ah ouais? Alors attendez, je teste un truc.
C'était. Présentée par Virginie Efira. T'imagines la Virginie saison... Efira, ouais. Quand
elle a fait Star Academy belge avant de faire Nouvelle Star en France. Ouais, ouais. Fanny Grézy beaucoup. Oh merde. Attendez, mieux. C'est réparé. Vas-y, dis quelque chose. C'est mieux comme ça. Attends, mais je comprends pas ce qui se passe ce soir. C'est incroyable. D'habitude, ce...
je pense qu'on doit laisser le hasard. Hein.
Elle ne grésille plus. Mais je comprends pas. Un coup, elle grésille, un coup, elle grésille. C'est bon maintenant. Bon, ok. Ça va être un coup sur deux. N'hésitez pas à me redire, du coup, si elle se remet à grésiller, je réglerai le problème, du coup, à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, donc, elle a présenté, donc, Virginie Efira a présenté la Star Academy Belle. Mais c'est incroyable, j'en avais jamais entendu parler. Sincèrement.
Ben, je pense que vraiment beaucoup de gens ont fait en sorte que personne ne se rappelle de ça.
Ah oui, ils ont tout ils ont vraiment tout effacé. Ils ont vraiment tout effacé faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune trace de. Mais c'était. Toi, tu l'as regardé la Star Academy belge, du coup ? Tu as souvenir de l'avoir vu ?
Vitef, tu vois, je voyais que ça passait un peu dans les magazines que j'achetais justement, mais ça avait l'air tellement cheap. Et puis, vu que tout le monde s'en foutait par rapport à celle de France, bah, je regardais surtout la française, quoi.
Ouais, ça faisait plus cheap, non, c'est ça ? Ça faisait plus cheap du coup, la version.
Ouais, de ouf. Bah, en même temps, tu peux mettre n'importe qui dans un château en Belgique, ça reste un château en Belgique, quoi. Ça vendirait pas personne.
Ah, c'est pas Damary Lillis, ouais, c'est sûr.
C'est ça.
Et qu'est-ce que t'en penses ? D'ailleurs, tiens, je vais te poser la question parce que tu es là. T'en penses quoi, toi, alors, du retour de la Star Academy ?
Ah, écoute, j'en sais rien. Je pense que ça va faire un gros flop. Enfin, d'un côté, je dis ça, mais j'étais sûre que les QR codes, ça marcherait jamais, tu vois.
Oui, mais il a fallu le Covid, tu vois, c'est comme quoi, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Mais non, je pense à faire un flop parce que ça se base surtout sur la nostalgie. Et la nostalgie, c'est super, mais quand tu ne la confrontes pas à la réalité actuelle. Et donc là, on va se retrouver avec un truc méga marketé, alors que ce qui était bien dans la Star Act d'avant, c'était un peu ce truc naïf, ce truc... Ouais, un peu candide et tout, tandis que là, ça va être très marketé, ça va être probablement que des gens qui chantent méga bien, comme il y en a à The Voice et tout. Et puis, voilà, nous, on aura tous grandi, malheureusement, et ce sera nettement moins fun. Donc, peut-être que ça va devenir à nouveau important pour la génération qui a 20 ans de moins que nous. Mais pour nous, je pense on va regarder le premier avec nos potes en buvant des bières et dire « Oh mon Dieu !» Et puis la deuxième, on sera comme « Ah, peut-être je suis pas dispo ».
C'est exactement ce qu'on se disait, en fait. C'est que je pense que par nostalgie, la première va cartonner.
Ouais.
Déjà, nous, il y a une grosse partie avec la commu, on va essayer d'être dans le public carrément, tu vois.
Oh putain.
Bah ouais, attends, on va essayer d'y aller, tu vois, on va essayer d'y aller. Mais par
contre, un gratin à toi.
Ah ouais, je pense qu'on va y venir à une quinzaine de personnes, tu vois. Il va y avoir vraiment le gradin flonflon musique, tu vois. Mais au-delà de ça, c'est qu'on... Après, il y aura la curiosité de voir justement le deuxième Prime et de voir justement comment ça va prendre. Parce que mine de rien, comment se met l'aventure. Et c'est vrai que tu as raison. Le côté nostalgique, ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point... déjà, toute la com tourne autour en ce moment de Grégory Le Marchal et les prestations de Jennifer Nolwenn, tu vois. Et je pense qu'ils oublient...
On oublie que pour un Grégory, il y a eu aussi beaucoup de Eva.
Oui, bah on l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse beaucoup, évidemment. Mais c'est vrai qu'ils ont...
Ce lui reste.
Ils ont oublié Eva, François et compagnie, quoi. Ils ont... C'est ça, petit ange, c'est ça, petit ange.
Petit ange parti trop tard.
On oublie petit ange. Ah non, mais vraiment, ouais, c'était catastrophique, quoi, Eva. Ouais, ils oublient un peu ce côté-là qui va être plus formaté aujourd'hui. On aura plus de pros, quoi, c'est sûr.
Ouais, maintenant, c'est ça qui était bien aussi à Starac, c'est que c'était des gens comme nous, c'était des teubés, c'était des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait, et c'était fun.
Et ils ont clairement dit, parce qu'on a lu un article du Parisien cette semaine, ils ont clairement dit que des profils à la Jean-Pascal, c'était hors de question. Vraiment,
il était... Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus mettre un mec qui dit que c'est pas un gros PD ou je sais pas quoi d'homosexuel.
Que la danse, c'est pour les PD et les tapettes. Ouais,
bon, ouais, c'est ça. C'est évidemment qu'il n'y a plus rien qui passe.
Oui, avec les réseaux sociaux qui sont scrutés avant. Tout a été dit dans l'interview. Hein, ils demandent les réseaux sociaux pour que ce soit scruté, etc. Ouais, regardez aussi une marge de progression, Luciana, mais ils veulent pas des profils de Jean-Pascal où vraiment ils ont juste pris le gars pour sa personnalité, que ce soit Jean-Pascal ou même Georges Alain, tu vois, parce que les gens en parlent dans le chat, il n'y avait pas une envie de ça, quoi. Il n'y avait pas une envie de ça. Vraiment, on aura Harlem. Oui, un Harlem aussi, saison 4, saison 5, incroyable. Mais concernant toi, donc les musiques qui ont marqué ta vie, donc musique pour ado assez classique, t'as quel âge toi, Fanny ?
Moi, j'ai 28 ans.
Ouais, c'est ça. Donc vraiment, on a vraiment même génération. Donc ouais, c'est ça. C'est tout ce qui était Laurie, Billy Crawford.
Bah ouais, ma vie.
Bah ouais, ma vie. Incroyable que tu dises ça. Non, mais c'est trop bien. Et t'écoutais de la musique comment, toi, chez toi ?
Moi, on avait une sorte de grosse chaîne IFI de daron, tu vois, avec toute une colonne de trucs et deux énormes baffles, avec vraiment juste le CD et la radio qui étaient utilisées. Et le reste, c'était juste prendre de la place. On avait ça, sinon moi j'avais une radio dans ma chambre sur laquelle j'écoutais pas mal de CD que des fois je gravais moi-même et tout parce que j'étais un pirate.
Oh là là, le pirate ouais, d'Internet. Oh, le pirate d'Internet.
J'ai un passé assez lourd.
Adopi a un dossier énorme sur Fanny Ruiz.
Sachez-le. Et sinon, bah, j'ai aussi eu les petits MP3 éclatés où tu dois aller un par un pour aller trouver la chanson que tu veux et tout.
Ah ouais, les MP3 en aléatoire, les trucs où tu devais connaître par cœur ton.
Ouais, c'est ça.
Ce que tu avais dedans et ouais, tu devais connaître ton MP3 par cœur pour atteindre ta chanson. Ouais, je me souviens bien de ça.
Coup, si tu rajoutais de la musique dessus, bah, c'est mort, tu devais réapprendre.
Ah, c'était l'enfer.
C'était vraiment un gros investissement en temps.
C'était infernal. Ça, c'était vraiment infernal. Alors, on me dit que ça regrésille. Alors, attends, je réessaye. Je te refais disparaître. Ça va être un peu catastrophique. Je suis désolé aujourd'hui. C'est vraiment. C'est bizarre parce que ce système-là n'a jamais bugué. Est-ce que est-ce que vous entendez Fanny ou pas?
Wesh l'ami, vous m'entendez?
Bah non, on s'en fout pas. Si ça grésille, c'est pas très agréable, Tara. Bon, le grésillement va pas être très très agréable.
Sarah.
Parfait. Ouh. Il suffit de reboot Fanny. C'est bon. Non mais ouais, moi je me souviens très bien des MP3, que tu remplissais à fond. Et tu t'es chargé avec quoi LimeWire, des trucs comme
Émule.
Ça
Émule.
Émule, oh là là, à l'ancienne.
Émule,
voilà.
Évidemment, ma vie.
Team Émule
pour télécharger l'album des choristes, allez, que j'avais gravé pour toute ma famille.
Ça te permettait d'avoir, tu utilisais Émule pour faire des découvertes ou pour juste télécharger les trucs que t'entendais? C'est-à-dire que tu te laissais des fois porter par tes recherches?
Ah non, je découvrais rien du tout. Genre, je me rappelle le tout premier morceau que j'ai téléchargé sur Emule, c'était le générique de Desperate Housewives, parce que je le trouvais trop beau et que j'adorais trop la série, donc je téléchargeais ça et donc je l'écoutais vraiment premier degré, quoi.
J'ai rarement entendu ça, je crois. J'ai téléchargé le générique d'une série que j'adorais. Parce que plein de gens nous parlaient beaucoup par exemple des prestations justement dans les émissions de télé que les gens téléchargeaient en MP3. J'ai découvert ça. Parce que moi, je faisais pas ça, mais il y a plein de gens...
Ah, tu faisais pas ça?
Non. Ah non, pas du tout. Parce que
pas eu d'adolescence.
Bah non, on m'a tout volé. On m'a tout volé. Écoute, Fanny, c'est comme ça. Non, jamais. Mais non, parce que justement, on m'a parlé... parce qu'en ce moment, on regarde Nouvelle Star avec la saison de Julien Doré. Et les gens me disent tout de suite, ah, cette prestation, je l'avais téléchargée pour la mettre dans mon MP3.
Ah, mais ouais, moi, j'en avais plein de Julien Doré. J'en avais plein de... Je me rappelle de À ma place, c'était Julie et... Tigane, un truc du style.
Le Tig, oui, comme on l'appelle ici. Oui,
ouais,
tout à fait. Tigane,
t'as une mémoire.
T'as une mémoire incroyable.
Écoute, mémoire, franchement.
Oui, c'est vraiment bien sélectif.
Ouais.
Incroyable.
Des trucs comme ça, ou genre la presta à la Starac de Lucie Hazard, quand elle avait chanté sa compo, ça m'avait rendu zinzin. C'était genre Donne-moi tes je t'aime ou je sais pas quoi. Incroyable.
Ah ouais, mais là c'était une question de compo parce que ça c'est un truc par contre de sur les émissions à la télévision, c'est vrai que c'est un truc qu'a pas la Starac, c'était le côté Nouvelle Star, le côté artiste qui interprétait ses compositions. On n'avait pas trop Nouvelle Star, c'était méga Nouvelle Star Star Academy par contre, c'était très formaté, des chansons qui étaient déjà existantes, il y avait pas d'écart, puis très populaire aussi, on en avait parlé. Ah, en saison 7, les candidats chantaient leurs compos parfois, d'accord, Sgarblux. OK. Donc, parce que là on a des
personne ne se rappelle la saison 7, donc...
Là, tu vois, il n'y a pas de nostalgie sur celle-là, bizarrement. Tu vois, il y a zéro nostalgie sur
cette... La 7, c'était qui? C'était Sinélu?
Non, c'est la 6, Sinélu, non?
C'est pas Quentin?
Quentin, c'est la 6? Putain, moi, j'en sais rien, moi. Quentin, c'est la 7.
Attends, t'es pas expert?
Attends, je suis pas expert. Je suis expert jusqu'à... Oui, c'est Quentin Moziman, la 7, c'est ça. Cyril, c'est la 6.
Oh là là, je pensais que c'était plus vieux que ça, Moziman.
Après, c'est quand même à l'ancienne. Enfin, Moziman, saison 7, on parle quand même de l'année 2007, 2008, un truc comme ça. MDR, les consultants. Putain. Ah, mais Geeko 86, les consultants. Mais il y a des gens dans ce chat qui connaissent la Star Academy. Mais vraiment, si je dis Nikos... Ah ouais, mais quand je dis Nikos, dans quel prime il dit telle phrase, on me dit saison 2, prime 11, à la 23e minute. Hein, vraiment. Et encore, oui, les... Il y en a deux qui sont pas là, mais qui sont plus calés, encore plus calés que nous.
Ah, les Bégettes du château.
Ah, les Bégettes, ouais, qui sont vraiment à fond, hein, qui sont complètement à fond. Hein. Est-ce qu'il y avait la pratique d'un instrument dans ta famille, parce que tu parlais de ton papa qui écoutait un peu enfin, plein de choses, mais du coup, est-ce que les gens dans ta famille pratiquaient un instrument?
Mes parents jouaient pas d'instrument. Moi, j'ai essayé de faire du piano quand j'avais genre 8-10 ans, sans succès. J'ai fait un an, puis solfège, ça m'a saoulé et tout. Puis quand j'avais 14, je pense, j'ai commencé la guitare. Et puis je voulais trop être dans un groupe de rock et tout, tu vois. Genre,
ouais.
J'étais batteuse, alors que j'avais jamais fait de batterie, mais j'étais dans un groupe, quoi, tu vois. Et donc j'avais pas de batterie, j'ai jamais touché une batterie de ma vie, mais on s'était fait une adresse mail avec le nom du groupe, nos blazes et tout, pour essayer d'exister dans un groupe, quoi.
Ouais, t'en étais, quoi. Tu voulais en être. C'était le côté je fais partie.
Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je voulais juste être là, tu vois.
Mais comme tout à l'heure, la fascination dont tu parlais des danseurs sur scène, en fait. C'est ce truc de paraître, en fait. Enfin, l'image du truc, le fait d'être dans le milieu de la musique, en fait, de connaître.
D'être fasciné de gens qui arrivent à créer des trucs. Et puis, moi, j'adore, c'est con, hein, mais j'adore l'organisation. Et l'organisation de concerts, de trucs, dans un groupe, tu dois gérer les gens, tout coordonner. J'adore ça. Et je pense que je serais bien meilleur manager qu'artiste en vrai. Parce que j'aime trop gérer les agendas.
Je trouve que t'es vraiment dur avec toi-même, vraiment, quand même. C'était une super.
En fait, c'est parce que t'imagines pas à quel point j'organise bien. Franchement. Mon agenda, c'est un truc vraiment, mais de zinzin.
Mais alors, du coup, aujourd'hui, t'as laissé une partie de ton organisation à une prod, je crois.
Et... disons qu'elles ont accès à mon agenda, elles peuvent rajouter des choses, mais dès qu'elles changent un moindre truc, je reçois un mail.
Ah d'accord, ok. Ah oui, ouais. C'est
je suis quand même. Toujours.
Ouais, je sais qu'elle a organisé des concerts à Bruxelles. Je sais que t'as fait pas mal de choses justement en termes d'organisation. C'est ça que je trouvais hyper intéressant, c'est que quand j'ai préparé cette émission. Je me suis rendu compte que tu avais notamment lancé un webzine musical, donc qui s'appelait Les Vagues Parallèles. D'ailleurs, j'ai plein de questions à te poser. Enfin, j'ai une question principale à te poser là-dessus. C'est que Les Vagues Parallèles, j'ai vu du coup que c'était encore actif. Il y a un Instagram.
C'est encore actif de ouf, et c'est juste que maintenant on a refilé la main à toute une équipe qui gère ça beaucoup mieux que moi, parce que là où je sais gérer de l'organisation, j'ai beaucoup plus de mal à gérer des gens. Et avec les sensibilités de chacun et tout. Et ça, j'ai du mal de ouf. Et donc maintenant, c'est eux qui gèrent ça. Et le site n'a, je pense, jamais aussi bien marché que depuis qu'ils ont repris. Et c'est vraiment super. Et je vais souvent, moi, voir pour essayer de découvrir des trucs, justement, parce que j'ai beaucoup moins qu'avant la curiosité d'aller chercher des groupes que j'écoutais pas avant. Maintenant, je tourne en boucle sur les mêmes trucs, quoi.
Ouais. Bah, c'est un truc, quand tu grandis,
ouais.
Ce qu'on appelle la fameuse paralysie musicale, elle arrive un peu malgré toi, l'habitude, le fait de... Où t'as l'impression, ah mais non, mais j'aime trop la découverte musicale, parce que toi justement, t'as quand même ouvert un webzine musical, t'as été dans une radio, t'as animé des tranches où tu parlais de musique, t'as carrément fait, avant Les Gens qui doutent, t'as fait un podcast où tu parlais un peu de musique. Qui s'appelle Quistax, j'espère que je pense bien, parce que c'est Quistax, c'est
ouais,
ça
Quistax, ouais. Ouais, Quistax, c'est un mot belge, les trucs que tu mets à la plage, tu pédales et tu vas sur la plage.
Ok, d'accord, ok. Et tu parlais de plein de sujets différents, en fait, par podcast, et soit tu prenais un artiste, soit un courant.
Un artiste, et je faisais 10 minutes, où en gros, je disais, voilà pourquoi je trouve que cet artiste, vous devriez l'écouter aussi, en gros.
Ouais, voilà, en mode, comme il y avait des trucs du genre, j'ai vu aussi un super, moi je me souviens que, parce que j'ai écouté du coup des extraits des podcasts, et j'en ai écouté un entier, c'est carrément sur le label. Des fois, tu faisais des petits hors-série, genre le label Sub Pop notamment. T'avais fait un truc entier sur le label. C'était hyper bien. Parce que le podcast, en plus, à ce moment-là, j'ai l'impression que le podcast date un peu. C'était un peu le début du podcast, en plus.
C'est avant Les Gens qui doutent. Donc, je l'ai arrêté il y a 3 ans. Donc, ça doit faire 5 ans.
Ouais, quand même, ouais.
Et ça, tu vois, on parlait de mémoire sélective. Je n'ai plus aucune idée de l'histoire de Sub Pop. Par contre, te dire que Tigane a chanté à la Nouvelle Star, on est là.
J'adore. Mais en fait, pourquoi ? Parce que tu faisais ces podcasts parce que tu étais à ce moment-là dans des découvertes musicales et tu avais envie de partager juste sur le moment ?
Ouais,
comment c'est né, en fait ? C'est à cause de la radio ? Comment c'est né, tout ça ?
Ouais, je pense que ça vient d'une frustration de la radio. Tu vois, j'étais sur une chaîne nationale qui allait de plus en plus vers quelque chose de commercial. Et moi, j'avais envie de pouvoir parler de musique que j'aimais vraiment, que des artistes que j'aimais vraiment. Et souvent, j'ai des obsessions. C'est comme ça qu'est né les gens qui doutent d'ailleurs. C'est, j'ai une obsession pour une personne, je vais mater tout ce qu'elle a fait, écouter tout ce qu'elle a dit, et puis après je me dis ok, il faut que je fasse quelque chose de ces informations, je vais les mettre dans un podcast, et voilà quoi.
Ouais, ouais, pour synthétiser, pour que ça existe quelque part ensuite, parce que ouais. Les podcasts existent encore, en plus on peut encore les
ouais, je pense.
Ouais, c'est ça. Oui, bah oui, j'en ai écouté quelques-uns, parce qu'au début j'étais là genre quand je regardais, j'écoutais, je lisais les interviews que tu avais fait et tout, j'étais là genre, ah mais attends, avec le temps, ça a pu exister. En fait, tout est vraiment encore...
Ouais, faudrait que je les sauvegarde quelque part, parce que je pense que ça va bientôt être supprimé. Faudrait que je les re-upload.
Ah, parce que c'est hyper bien. Enfin, écoutez, c'est super, c'est vraiment des petites capsules. Mais l'amour pour la musique, la volonté à un moment donné dans ta vie de vouloir partager des choses autour de la musique, donc notamment la vague parallèle, comment c'est né ce truc-là? Pourquoi tu as voulu... précisément la musique?
Je sais pas, à ce moment-là j'étais un peu dans un bail, j'entrais dans une école de com, j'étais en mode ok, j'aime bien cet univers de la musique et tout, j'ai envie d'aller m'incruster dedans, découvrir des trucs et peut-être écrire des articles un peu pour m'entraîner et tout, et de fil en aiguille j'ai écrit pour un site qui n'existe plus, et du coup après bah, avec un copain qui était aussi sur ce site-là, Arthur, on a lancé la vague parallèle. Et voilà, c'était l'idée de continuer à faire des choses et d'avoir un peu des raisons. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec le principe de loisir, tu vois. J'ai du mal à juste faire quelque chose pour moi sans me dire ça va me servir dans mon travail, je vais en faire quelque chose après. Mmh. Et donc voilà, ça me poussait un peu à creuser plus loin que juste écouter sans me poser de questions, quoi.
Ah ouais, même l'écoute musicale, t'as jamais eu une écoute musicale sans penser à l'exploiter derrière, genre vraiment
ben maintenant, l'écoute. Si. Ouais. Maintenant si, c'est beaucoup plus du fun, mais tu vois, quand je lis un livre, je me demande toujours qu'est-ce que je vais pouvoir en faire derrière, tu vois, sur quoi est-ce que ça va m'aider à avancer sur des trucs. Dès que je commence un truc, je me dis ok, est-ce que j'en qui doute, tu vois, il y a toujours un truc derrière, quoi, parce que comme si j'osais pas prendre du temps pour un truc qui est juste agréable.
Ouais, après c'est un peu le truc de nos métiers, et plus particulièrement du tien en plus, c'est que chaque chose nourrit tes créations aussi. Ça va être super compliqué. Parce qu'il y a un truc dont tu parlais, après on reviendra sur ta vie, etc. On fait un peu des bons en avant, en arrière, hein, vous inquiétez pas pour les gens. Mais il y a un truc, parce que j'ai écouté, c'était il y a un moment, mais j'ai réécouté des extraits pour bien me souvenir. Tu as participé à un podcast qui parle de musique récemment, les copains de chez Goûte Mes Disques. Le podcast s'appelle Game Changer, c'est l'épisode numéro 5, où tu as parlé dans un premier des morceaux de l'album qui a marqué, un des albums qui a marqué ta vie, en tout cas qui a du coup été ton game changer, comme le nom l'indique. Mais un peu plus loin dans le podcast, tu parles de quelque chose de très intéressant sur l'idée de te nourrir un peu de ce qui se passe autour de toi, et notamment de la musique. En fait, je ne sais pas comment tu l'as amené, mais tu parlais un peu des fois des vannes faciles autour de certains artistes, tu sais. Mmh. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Tout ce point de vue où tu voulais éviter certains écueils, et même des fois j'avais l'impression, alors peut-être que j'ai un peu extrapolé, mais un peu tu voulais un peu éviter le mépris ouais, facile en fait.
Ouais, mais parce que j'ai beaucoup été comme ça moi-même, à me foutre de la gueule des trucs commerciaux, des grosses pop stars et tout, les chanteurs français qui marchent bien, tu vois, et c'est tellement facile de faire des vannes sur Julien Doré ou Vianney, et alors qu'en vrai Vianney, c'est un des meilleurs paroliers en France.
Ouais.
Et ses chansons, elles sont... Enfin, il y en a dont je ne suis pas fan, mais il y en a qui sont vraiment très, très cool, quoi. Et donc, il y a ce truc d'un peu... Maintenant, je suis beaucoup moins dans le rejet de la culture populaire parce que je suis moins dans la curiosité, donc je suis beaucoup plus confrontée au truc populaire. Et puis parce que je me dis que franchement, des fois, la vie, c'est de la merde. Et donc, si on arrive à trouver des choses agréables, qu'elle soit populaire ou pas, c'est déjà bien, franchement.
Ouais, ouais, c'est cool. Ah, parce que tu parlais dans ce podcast, justement, tu parlais juste de... C'est ça qui était trop bien. En fait, il y a des gens qui kiffent, en fait. Et à partir du moment où les gens kiffent, c'est trop con de taper dessus facilement. Puis en plus, c'est tellement des cibles faciles, en fait. Genre, c'est tellement facile de dire, à un moment donné, la millième vanne sur... aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs, par exemple, avec Jules, par exemple, tu vois.
Ouais.
Jules. Puis en plus, il y a vraiment du mépris de classe. Genre, à un moment donné, littéralement, c'était un peu le débile de Marseille. Hein. Vraiment, il y avait des commentaires un peu violents. Et en fait, C'est juste qu'à un moment donné, c'est plus drôle. Et il y a un truc qui était hyper intéressant dans la façon dont tu te nourris, c'était de dire, en fait, moi, je préfère chercher plus de subtilité, en fait. Chercher un angle ou un artiste ou quelque chose que personne connaît, parce que tu parlais de la vanne que moi j'adore sur Nickelback, que personne peut comprendre, en fait, finalement.
Ouais.
Qui est trop bien, en fait, tu vois. Et c'est ça qui est hyper chouette, c'est que tu préfères être underground un peu dans ta vanne plutôt ouais. que d'être dans la facilité du mainstream. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool.
Ouais, maintenant, là, enfin, genre faire une vanne sur Nickelback, c'est pas du tout original. Mais moi, mon point, c'était de dire pourquoi il y a des choses comme ça qu'on déteste. Et là, dans le spectacle, la vanne, c'est je parle des ballerines, que tout le monde méprise les ballerines et que c'est vraiment devenu le Nickelback des chaussures.
Ouais, c'est trop
bien. Il y a ce truc plutôt qui va parler à une niche, parce que putain, il faut déjà avoir les rêves d'internet de tout le monde tape sur Nickelback et tout. Et je sais qu'il y a vraiment pas grand monde qui va rire, mais ceux qui l'ont, c'est cool.
Bah ouais, c'est trop bien. Mais moi, je trouve ça plus intéressant. Puis en plus, ça enlève quand même. Ça enlève un mépris, en fait. Enfin, je trouve que ça amène un mépris facile, parce que nous, sur la chaîne, on est justement. Parce qu'en fait, comme toi, hein, j'ai participé à des webzines musicaux, j'ai écrit vachement, et en fait, on se la joue de ouf, en fait. Je trouve qu'à partir du moment où tu commences à écrire sur un sujet, tu veux pas au début, mais en fait, tu finis. J'ai l'impression, malgré toi, de rentrer où je sais pas, tu te prends trop au sérieux, peut-être.
Ouais, mais il y a un truc vraiment de branlette. Mais je comprends, c'est assez humain comme réaction de se dire putain, moi j'ai cherché de ouf pour découvrir des choses et tout. Il faut que tu te sentes valorisé d'une manière ou d'une autre. Et si tu n'as pas cette validation par les autres, tu vas un peu te la créer tout seul, à te branler sur tes goûts, sur tes trucs et tout. Et ouais, non, je pense que c'est humain comme réaction, mais avoir un peu de recul, quoi.
Ouais, je trouve qu'à la longue, au début, tu t'en satisfais. Et puis, je sais pas si c'est fait de grandir ou pas. Après, je sais qu'il y a des gens qui évoluent pas plus que ça. Il y a des on va pas se mentir. Il y a des journalistes musicaux qui font ça depuis 25 ans et tu lis leurs chroniques. Je sais pas si ça t'arrive encore de lire des chroniques musicales.
De moins en moins, parce que j'ai un peu un rejet de tout ça maintenant. Parce que je sais pas si t'as vu la série Ted Lasso.
Oui, bien sûr.
Et ben, il y a une scène que je trouve incroyable où celui qui grogne tout le temps, tu vois.
Oui, je vois bien, ouais.
Le brin un peu ténébreux.
Oui,
là,
le genre de foot, oui, qui est jamais content de ce qu'on lui donne, de ce qu'on fait.
Ouais.
Oui, je vois bien.
Lui.
Ouais, bien.
Il pète un câble sur des commentateurs sportifs. C'est ça. Et il pète un câble sur des commentateurs sportifs en leur disant putain, les gars, mais vous êtes là à juste commenter des trucs, à dire on pense que nanana, alors qu'en fait, vous en savez rien, vous vous rendez pas compte du taf qu'il y a derrière, vous êtes juste là à commenter alors que vous ne créez rien. Et ça m'a méga marqué comme moment parce que j'essaye d'être beaucoup plus dans la création de trucs maintenant que dans la vie, les critiques et tout. Et maintenant, je sais pas, il y a un peu un truc de les gens qui écrivent des articles ou machin, ils sont derrière leur ordi tout seuls, ils écrivent des trucs pour essayer de se sentir exister parfois et ça me saoule. Mais d'un côté, il y en a qui font ça trop bien et il y en a qui. En fait, j'aime bien quand les gens parlent de choses positives et qu'ils essayent de vraiment te faire aimer, te faire découvrir les nouvelles choses. Mais je vois pas l'intérêt de perdre du temps à parler de choses que t'aimes pas juste pour le défoncer et te sentir exister, quoi.
Ouais,
c'est un truc qui me
Ouais, c'était ça, ouais, ouais. Moi, c'est un truc que je défends finalement, même quand on me dit la critique, même négative, peut être constructive et tout. Et je fais ouais, c'est clair, hein, quand c'est bien fait et tout. Mais moi, maintenant, je préfère même mettre ça de côté et puis faire en sorte de parler que des trucs qui me plaisent parce que moi, comme ça. Bah, si vous voulez entendre quelqu'un, par exemple, les gens savent que j'aime pas le reggae, tu vois. Mais si t'as envie d'entendre quelqu'un qui parle bien de reggae et qui aime le reggae, va ailleurs, c'est pas grave, tu vois.
Oui, non, c'est ça. Il y a assez de niches maintenant pour que chacun y trouve son compte et qu'on puisse parler que des trucs qu'on aime bien, quoi.
Ouais, de ouf. Et puis toi, en plus, par le métier que tu fais, je suppose que la critique, c'est quelque chose que t'as souvent en plus.
Je pense que ça doit jouer aussi le fait que je suis juste tannée de la vie des gens. Enfin,
Au bout d'un moment, t'en as juste ras-le-bol, quoi. Tu vois, c'est.
Ouais, c'est ça. C'est pas parce que t'as un avis que t'es obligé de le donner. Vraiment.
Ouais, c'est ça. Parce que toi, entre le spectacle juste et puis. Parce qu'en plus, tu t'exposes vachement en étant sur l'une des plus grosses radios françaises et en plus, chronique qui se retrouve sur Internet. Parce que à la limite, à une époque, t'aurais pu faire des chroniques alors qu'il y avait rien, on va dire quasi aucune trace. C'est vrai que du coup, la critique, à un moment donné, je pense que tu dois tu dois, ouais, en avoir, tu dois vraiment en avoir ras-le-bol, quoi. Et du coup, avant de revenir, parce que j'ai envie de revenir sur les webzines musicaux que t'écrivais, que t'étais intéressé, on va revenir en arrière, parce que du coup, tu dis, ouais, j'étais intéressé par le milieu de la musique, mais comment t'as nourri tout ça? Parce que c'est quoi l'équivalent, parce que nous, en France, on a primaire, collège, lycée. C'est quoi l'équivalent en Belgique, juste pour qu'après je resitue et que je puisse te poser les bonnes questions?
On a 6 ans de primaire, on a 6 ans de secondaire, c'est le collège, et puis on a 5 ans ou 3 ans d'université.
Ok, d'accord. Donc quand tu arrives en primaire, donc primaire, plutôt collège, même plutôt un peu plus loin, du coup, quelles sont tes découvertes musicales, toi, à ce moment-là? Est-ce que tu as un truc qui a été important dans ces années-là, un artiste, un groupe? Bah, tiens, on reparlait d'un album, pas forcément celui dont tu as parlé dans Game Changer, mais des trucs qui commencent un peu à te toucher, où tu dis, ah, pas mal, là.
Quand j'étais 2005, j'ai découvert Green Day, et là, c'est ma cousine qui m'a fait découvrir ça, qui était un peu plus âgée, donc j'étais en mode, oh mon dieu, c'est le summum du cool, Green Day et tout, et donc j'ai commencé à écouter pas mal ça, écouter pas mal de pop rock, Sum 41, Simple Plan et tout, Good Charlotte évidemment, et donc j'écoutais pas mal ça. Puis au début de mes secondaires, donc au début du collège, je me suis découvert une passion pour Superbus.
Aïe.
Yes. Et j'adorais. Et genre, je m'habillais plus qu'en noir, blanc, rouge, parce que c'était l'époque de Wow. Et donc, tout leur visuel, c'était noir, blanc, rouge. Donc, je m'habillais que comme ça.
Et est-ce que tu as été les voir en concert ou pas? Du coup,
non, je les ai jamais vus en concert, parce qu'à l'époque, j'habitais pas du tout près d'une grande ville. Et donc, c'était vraiment tout un voyage d'aller dans la capitale, quoi.
Ouais.
Donc, je les ai pas vus. Par contre, fun fact, c'était une de mes toutes premières chroniques chez Inter, c'était avec Chantal Lobby, qui est donc la mère de la chanteuse de Superbus. Et donc, j'ai pu faire une vanne en disant que c'est grâce à sa fille que j'avais découvert que je n'étais pas tellement hétérosexuelle.
Elle a dû adorer en plus. Je suis sûr qu'elle a dû, kiffer.
Ah ouais,
en plus.
Elle a rigolé.
Elle a dû bien rigoler en vrai. Ouais, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Parce que du coup, tu as Superbus qui est important, donc qui est important un petit peu quand même pour toi. Tu le renies, de toute façon, on renie pas en général les trucs que tu qu'on kiffe en général.
Ah non, mais non, moi j'étais trop heureuse d'écouter ça, donc il y a pas.
Ouais, c'est juste que tu, voilà, c'est qu'avec le recul, tu dis bon, c'était bon. Il y a une qualité que t'aimais quand t'étais jeune, c'est que tu découvres aussi d'autres trucs ensuite.
Oui, et puis j'avais 13 ans, quoi.
Ouais, c'est ça aussi, ouais, donc, c'est ça. Et tu découvrais un peu des trucs avec des amis, peut-être que t'avais à l'école. Il y avait peut-être des découvertes musicales que t'as fait. Avec tes potes.
Un petit peu mal. À l'époque, je traînais déjà beaucoup sur Internet. J'avais des skyblogs. J'avais un skyblog sur un groupe qui s'appelle Second Hand Serenade. C'était de la folk vraiment pas bonne.
Second Hand
Serenade, vraiment sérénade de seconde main, quoi. Oh et c'était le cas, franchement. C'était pas très bon.
Oh là là. Oh, y a déjà le morceau le plus écouté. C'est vraiment le cliché, le morceau s'appelle Fall For You.
Ouais, ouais, c'est vraiment exactement ce à quoi on peut s'attendre. C'est,
oh là là.
C'est de la folk un peu emo.
Ah oui, Stay
avec
Close.
Avec un mec qui a des spikes.
Ah là là, Stay ouais. Close, Don't Go. C'est vraiment la démence.
Racle 100% ça.
Racle, on dirait, tu sais, des faux titres. tu sais, fais le truc le plus cliché de folk. Ah oui, j'adore aussi. Ouais. Ah mais c'est exceptionnel.
C'est et donc voilà, j'aimais bien ce genre de choses, un peu folk et tout. Et donc, je passais vraiment beaucoup de temps. Déjà à l'époque, quand j'avais 13-14 ans, je faisais des skyblogs justement sur les groupes que j'aimais bien pour en parler, pour essayer de les faire connaître et tout. Et voilà, je pense que j'ai commencé à beaucoup écouter de folk à ce moment-là.
Ouais.
Et c'est resté assez longtemps. À l'UNIF, j'écoutais quasiment que ça. Et là, vu que je venais d'emménager à Bruxelles, j'avais beaucoup plus l'occasion d'aller au Botanique, d'aller à des concerts où vraiment on est 200 maximum et c'est à peine amplifié, quoi.
Ah, tu te souviens de ton premier concert?
Je me rappelle que le jour où j'ai emménagé à Bruxelles, je suis directement allée au Botanique acheter mon ticket sur place, alors qu'on pouvait le faire sur Internet, mais j'étais teubée. Et donc j'étais allée là-bas et j'avais acheté un ticket pour aller voir Gabrielle Aplin, qui est une petite meuf anglaise.
Je connais pas du tout. Gabrielle Aplin.
Un peu folk pop comme ça. Voilà. C'est gentillet, mais franchement, j'aimais trop ça, quoi.
Ah, je connais absolument pas Gabrielle Aplin. Une folkeuse. Je vais aller regarder.
Ouais, mais pas. Enfin, maintenant, ça s'est un peu popifié, je pense. Mais à l'époque, c'était ouais, beaucoup piano, guitare.
Ouais, je vois de toute façon, tu as déjà l'esthétique. Elle a un
Ouais,
EP
ouais.
qui s'appelle Home, et c'est comme une vieille photo en sépia. Donc, ouais, il y a
Ouais.
tous les codes de la folk. Tu sais, il y a vraiment des codes comme ça, genre.
On est
Allez,
là. Les années
check.
2010, elles sont là.
Ah, c'est fait, check. Voilà, ça c'est fait, j'adore. Je trouve
Ouais.
ça incroyable, je trouve ça incroyable. Donc, plutôt de la folk, alors, du coup. Et tout ce truc de. Parce que je me souviens que. Le truc que j'avais, bah, dont je me souviens sur le podcast Cuistax, c'est que du coup que j'ai relu aujourd'hui, c'est que c'était vachement ça en fait. C'était du rock, indé, folk. T'as
Ouais.
jamais été intéressé par d'autres styles de musique?
J'étais un peu plus indie rock à certains moments. Là, j'ai un peu des phases rap pour le moment. Mais rap très très grand public, tu vois. Genre, j'ai toujours méprisé Kanye West. Et puis là, j'ai maté les deux tiers du docu sur Netflix. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, je comprends la hype et tout. Et donc, j'écoute un peu ça. J'écoute beaucoup de Giorgio. Ce genre de truc, j'aime beaucoup Loud aussi parce que je trouve ça fou ce mélange entre français, anglais avec l'accent canadien à couper au couteau, je trouve ça ouf. Et il a un sens de la punch qui est incroyable. Et voilà.
Mais c'est aujourd'hui, du coup, plutôt le rap, du coup. C'est vraiment un truc plutôt.
Ouais, mais à côté de ça, pour l'instant, j'écoute beaucoup genre Pomme aussi, tu vois, donc ça dépend très fort.
Ouais, j'ai vu tes stories aujourd'hui où tu parlais du dernier album de Pomme qui est. On en avait parlé sur cette chaîne. Moi, je suis tombé amoureux de cet album, vraiment. Je le trouve.
Ah, il est très très beau.
Je le trouve vraiment, vraiment exceptionnel. Est-ce qu'elle le méprise à cause de son amour pour Taylor Swift? Demande Geeko86 dans le chat.
Je pense que ça doit jouer. Ouais, parce qu'il a ce côté. C'est pas tellement qu'il aime pas Taylor, c'est qu'il a ce côté vraiment méchant,
Ah,
de
c'est un
ouf et
douchebag.
vraiment humiliant, quoi.
Ah,
Et
c'est
ça,
un.
j'aime pas.
C'est un.
Ah, ouais, mais humainement, c'est vraiment un connard, mais.
Ah, ouais, c'est un. Enfin, Kanye West, c'est vraiment. Kanye West, c'est vraiment un trou de balle. Hein. Vraiment, c'est. Pardon, mais dernièrement, je sais pas si t'as vu sur Instagram, c'est
Sur
quand il est pas.
Pete Davidson.
Ouais, déjà, sur ça. Bah, déjà, oui, tiens, déjà ça. Là, en ce moment, il est en froid avec le patron d'Adidas. Et il se permet de faire des posts. Je me dis, mais je trouve ça ouf qu'il n'y a aucune équipe de com autour de lui qui lui dit stop, en fait, arrête.
Ouais, mais
Enfin.
je pense qu'il est juste, il est malade, vraiment, il a
Oui,
besoin
c'est
d'être
clair.
aidé et il se rend pas compte de rien, en fait.
Et donc, tu as un amour pour Taylor Swift. Alors, du coup, là, enfin, country folkeuse, à fond, là. Taylor Swift.
Ouais, ben là, mais moi, j'ai découvert sur le tard, j'ai découvert à l'album, je pense, Red. Et donc, c'était déjà beaucoup plus pop.
Complètement,
Mais genre, à 22 ans, j'étais là, I'm
ouais.
feeling 22, comme tout le
Aïe,
monde.
aïe, 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 aïe. C'est
Et
dur.
non, c'est dur et en même temps, c'est si doux.
Moi, j'ai aimé Taylor Swift que récemment. Parce que j'avais un. Je sais pas, c'est même pas une détestation. C'est juste qu'elle me. Indifférent, tu vois. Vraiment.
Ouais.
Mais il y a des gens dans ma commu qui aiment tellement et qui m'en parlaient tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, allez, vas-y, je vais jouer le jeu. Bah, après, peut-être que je la haïssais, mais moi, parce que justement, en vrai de vrai, je crois que je commence à me rendre compte que j'étais quand même justement plutôt l'inverse de toi. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été team Kanye. Et ça a peut-être joué aussi dans
Ah
mon.
ouais.
Ça a peut-être joué dans mon appréciation, tu vois, sur Taylor Swift. Et puis même, tout ce que j'avais écouté un petit peu. Je trouvais ça. En fait, je sais pas, ça m'intéressait pas trop. Et puis en fait, récemment, donc on en a parlé avec ma commu, puis elle a sorti Folklore aussi derrière. Et en fait, du coup, je me suis dit, tiens, je vais écouter toute sa discographie, du début, pour voir son évolution, etc. Puis je me suis dit, une meuf qui fait plier Apple Music et Apple en général, à mon avis, c'est pas une mauvaise meuf, tu vois. C'est sûr, elle doit avoir.
Mais c'est ça qui est assez incroyable avec certains grands artistes. Tu vois, on parlait de Jul tantôt. Qu'on aime ou qu'on méprise, c'est quand même des gens qui ont créé des putains d'empires,
Ouais,
quoi.
c'est clair.
Et Taylor encore plus et tout. Et le docu Miss Americana est assez ouf, même si, bon, évidemment, c'est brossage dans le sens du poil à tout va,
C'est
machin.
romancé, évidemment.
Mais tu vois à quel point la meuf, elle a créé un putain d'empire,
Ouais.
quoi. Et c'est incroyable. Et puis maintenant, artistiquement, le fait qu'elle te sorte quasiment trois albums en un an et demi, qu'elle bosse avec Bon Iver, avec Aaron The National et tout, il y a quand même artistiquement une énorme évolution et un talent assez ouf. Et autant, au début, je lisais beaucoup de trucs où on disait c'est une songwriter incroyable et tout. Ça, je le voyais pas du tout au début, mais j'ai l'impression que sur les derniers albums, il y a vraiment un truc plus soigné et vraiment très très stylé.
Ouais, je suis 100% d'accord avec toi en fait. On a exactement le même avis sur cet artiste. Alors, je pense que toi t'aimes depuis plus longtemps que moi, mais moi c'est ça, c'est quand on me parlait du fait qu'elle écrivait hyper bien, que c'était une super artiste, je le voyais pas du tout, tu vois, j'étais là genre ouais, elle fait de la pop quoi. Enfin, tu sais, j'étais là genre ouais, enfin vraiment il y a rien de plus quoi. Et j'avoue qu'elle a dû faire...
Non, faut pas oublier qu'elle avait 22 ans.
Ouais, c'est ça aussi. C'est ça aussi que je m'étais pas rendu compte, c'est que en fait quand, et c'est aussi pour ça, j'ai réécouté les albums quand elle avait 16 piges et j'étais là genre en fait, à 16 ans, les textes qu'elle écrivait déjà, la maturité.
Déjà, elle parlait anglais trop bien.
Ouais, déjà, t'étais là, genre, what? Mais attends, truc de fou. Et ensuite, après, j'avoue, par contre, c'est le côté un peu. Mais comme quoi, tu vois, j'essaie de me débarrasser du côté méprisant. Mais en fait, j'ai toujours ce truc. Il a fallu qu'elle travaille avec Bon Iver pour que je commence à.
Bah
me
ouais,
dire.
Bah oui, c'est logique. Hein.
Ça, c'est le côté gros con, tu vois. J'étais là, genre. Bah ouais, en fait, je me dis. En fait, il y a vraiment eu ce truc de. Non, mais je peux pas le croire. Bon Iver peut pas travailler avec n'importe qui. Tu vois, c'est vraiment le truc vieux con. J'étais là genre, attends, on va quand même réécouter. On va se pencher réellement sur les textes et sur son parcours. Et là, j'ai fait, ok, je commence à comprendre. Ok, je commence à comprendre que Kanye West, dans l'histoire, a peut-être été un gros con sur ce qu'il a pu lui dire et tout. Ou c'est comment il en a pu en parler quand même. Et ouais, c'est marrant quand même. Toujours ce truc de... Attends, excuse-moi. Toujours
donc,
ce truc de...
Maintenant, c'est Team Tay-Tay.
Ah là là, Tay-Tay, comme on dit. Team Tay-Tay.
Team Tay-Tay.
En vrai, il y a Morgan, Momo, tu sais, qui dit heureusement que Bon Iver est pas aussi snob que toi. C'est vrai.
Putain,
t'es ouf. Ben non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que j'ai été trop snob là-dessus. Je suis d'accord là-dessus. Et que je suis
Bon Iver,
pas...
il serait pas en train de regarder la Starac avec sa commu. Hein.
Sûrement que si. Je suis sûr que si. Il adore Nikos. Ah, Nikos from Star Academy. Yes. Of course, of course.
Yeah, come to my chalet.
Come to my chalet. Et quand tu grandis, hein, quand tu ouvres le webzine, que ce soit le webzine ou le podcast. Le webzine était avant le podcast, hein, c'est ça
oui, bien avant.
C'était ça, ouais. Le webzine, tu écrivais dessus du coup, c'est ça? Ou tu l'as juste ouvert et t'as cherché des rédacteurs et des rédactrices? Comment ça s'est passé?
Au début, j'écrivais beaucoup. Et puis, plus le temps avançait, moins j'écrivais parce que ça prenait beaucoup de temps de juste gérer le truc. Et parce qu'on était genre une équipe de 15-20 à un moment, tu vois. Donc, ça demandait quand même beaucoup de gestion. Et donc, j'écrivais de moins en moins. Et puis, je me rendais compte, en fait, que ça m'intéressait de moins en moins aussi. Et que j'avais du mal à expliquer pourquoi j'aimais les choses et enfin, tu vois, c'était juste j'aime bien, j'aime pas, et je le sens comme ça, mais l'exprimer, c'était assez compliqué, et je devais vraiment me forcer, et je tombais un peu dans des clichés de journalistes wannabe qui utilisent des termes que jamais personne de la vie aurait utilisés, et donc ça me saoulait un peu moi-même.
Oui, à force, c'était juste à force... en fait, c'est juste le truc de, à force d'écrire, à un moment donné, t'essayes de chercher des formules... Et tu t'épuises, en fait, je trouve, à un moment donné, toi-même.
Ah ouais, de ouf.
Tu t'épuises à chercher le je sais pas, la tournure, la façon dont parler d'un album. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as toujours... En fait, à un moment donné, quand tu n'aimes pas un truc, ou que tu l'aimes, tu finis toujours par retomber dans les mêmes écueils, dans les mêmes mots, dans les mêmes... Puis surtout, quand tu commences, ça, par exemple, tu as un artiste qui sort un nouvel album, tu en as déjà parlé 3 ans avant, tu en reparles 3 ans après. Je trouve qu'à un moment donné, tu es un petit peu... tu te perds un peu. Il y a quelque chose que je veux mettre en parallèle parce qu'il y a une info que j'ai.
La vague.
Allez, et bah écoutez, c'était bah oui, bah on se régale, merci. Justement, j'allais parler de ton métier d'humoriste, justement. Bon, on se régale, ça donne un avant-goût. D'ailleurs, regarde, je sais pas si t'as l'image du live sous tes yeux, t'as peut-être juste le chat.
J'ai toi et j'ai le chat.
T'as juste moi dans une fenêtre et le chat. Parce que, alors attention, il y a des gens qui vont voir un truc apparaître, ils vont trouver ça extraordinaire. J'ai préparé l'affiche qui redonne toutes tes dates de spectacle et qui apparaît actuellement à l'écran d'une façon hyper professionnelle. On est à la télé là. Là, c'est la téloche. Ouais, wow. Là, les gens disent wow dans le chat, tu vois. Il y a toutes tes dates qui s'affichent. Mais si je veux parler de ton métier d'humoriste, c'est parce qu'il y a un truc que j'ai pas trouvé, c'est à quel moment. Justement, dans ta vie, parce que là, on parle beaucoup des morceaux qui ont marqué ta vie, le webzine, etc., le podcast. Mais à quel moment tu décides de monter sur scène et d'écrire des blagues?
J'ai pas vraiment décidé. C'est juste qu'il y a un moment où, en fait, de base, j'ai terminé mes études et puis donc j'avais fait des relations publiques et là, je m'étais dit, ok, je vais devenir genre attachée de presse pour des groupes, pour des humoristes et tout. Et j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ça 6 mois et puis j'ai détesté et du coup, j'ai arrêté. Et pendant 6 mois, j'ai plus trop rien fait. J'avais un peu des taffes alimentaires et je m'emmerdais de ouf et je savais pas quoi faire et j'étais un peu dans une période pseudo-dépressive. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse des trucs pour sortir de ça, que j'essaye juste de tester de nouvelles choses parce que là, clairement, la formule, elle ne fonctionne pas. Et donc, j'ai essayé un peu des trucs à gauche, à droite et notamment l'humour. Je fréquentais pas mal le Kings of Comedy Club à l'époque. Et je me suis dit, ok, vas-y, c'est une option. Il y a un open mic. Juste, je me bouge le cul pour le faire une fois.
Ok.
Juste pour faire un truc, quoi. Et j'ai essayé et ça s'est passé correctement, mais comme une première scène. Et je me suis dit, ok, je vais essayer de l'améliorer. Et donc, j'ai refait un 5 minutes. Je me suis dit, ok, mais mieux. Et du coup, j'ai fait ça de fil en aiguille. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça devenait assez sérieux pour que je me dise, OK, là, il y a un truc à faire. Très vite, j'ai gagné un concours d'humour face à des gens qui en faisaient depuis plus longtemps. Donc, je me suis dit, OK, là, vraiment, il y a peut-être un truc. Et
Il y a un truc qui se passe. Ouais.
ouais.
Ah. Ah,
Donc,
ça va être vraiment. En fait, t'écrivais pour les autres, tu préparais les trucs pour les autres, mais tu faisais rien pour toi, en fait. Et c'est la première fois que tu faisais un truc pour toi, en fait, à ce moment-là, finalement.
Ouais.
Enfin, il y avait aussi. Bon, t'as écrit. Enfin, quand je parle pour toi, il y avait des articles que t'écrivais, mais c'était toujours pour parler des autres. Là, il y avait vraiment un truc où tu te
Ouais.
représentais. Ouais. Oui, j'ai fait aussi du Comedy Club. Oui, j'en ai fait une fois. Et...
Ah
Calmos,
ouais?
Calmos,
C'était
Calmos.
où?
C'était à Nantes. À Nantes, je suis monté sur une scène ouverte à Nantes. Enfin.
Et
Un peu, en fait, pas pareil que toi, mais presque. En fait, je fréquentais beaucoup un comedy club à Nantes qui s'appelle toujours, je crois d'ailleurs, le West Side Comedy Club, qui est à Nantes, une petite scène. Du coup, je fréquentais beaucoup d'humoristes nantais. Et du coup, surtout, un de mes meilleurs potes était humoriste. Et justement, il me tannait en me disant, vas-y, t'as une grosse culture stand-up, t'es un bon humoriste de table. On appelait ça comme ça entre nous, tu vois ce que c'est. Le gars qui est en réunion de famille, entre amis, il fait des bonnes blagues. Il dit, vas-y, essaye en fait, tu vois. Essaye une fois, tu vas voir, tu vas te marrer à le faire. Et du coup, en fait, j'ai coécrit un sketch avec lui et je suis monté sur scène une fois. Et j'ai adoré l'expérience, mais j'ai pas refait pour une raison, c'est que, genre, c'est trop de pression pour moi, tu vois.
Ah ouais, c'est
Genre,
horrible.
en fait, j'ai adoré le moment où t'es sur scène. Moi aussi, pareil, le seul passage que j'ai fait dans ma vie, c'est bien passé, tu vois, les gens rigolaient, c'était cool et tout. Par contre, les 5 minutes avant, genre,
Horrible.
j'ai jamais vécu ça, tu vois. J'étais
Ouais.
vraiment dans un truc de, mais franchement, je me suis imposé ça tout seul, je suis
Ouais.
trop con, tu
Ouais.
vois. Je suis trop con. Pourquoi je me suis imposé ça? En vrai, je pourrais être chez Wam, tranquille, posé. Pourquoi je suis là?
Ah ouais, tout pareil.
Ouais, c'est ça. Mais toi, t'as eu la force de continuer parce que vraiment, bravo parce que moi, j'aurais
Ouais, ou
pas.
l'ennui en fait. Vraiment, c'était plus l'ennui de je sais pas quoi faire, bah vas-y, je le refais,
T'avais
ouais.
pas de boulot prédéfini? T'avais fait des études en, tu disais en com, parce que t'avais
Ouais,
commencé
ben
finalement.
j'avais
T'avais commencé un peu en com. Enfin, t'avais le webzine, le podcast, t'as lancé. T'avais quand même lancé. T'étais réalisatrice pour la RTBF. Je crois que t'as fait un peu ça
Ouais.
aussi.
Mais je faisais ça justement, mais j'étais en freelance, tu vois, donc je choisissais un peu les horaires que je voulais, je choisissais, je faisais un peu, j'ai bossé un peu pour un site d'actu local, tu vois, c'était vraiment genre, je remplissais mon horaire assez pour payer mon loyer et être OK, mais ça me laissait quand même pas mal de temps où j'avais pas envie de faire quoi que ce soit, tu vois.
Mais t'as découvert des trucs en étant justement dans le métier d'attaché de presse,
Ben,
dans
j'ai
les
découvert que
radios.
c'est un métier horrible.
Pas de découverte musicale, mais juste c'est horrible en général.
Si, mais des trucs, genre les groupes avec lesquels je bossais, évidemment, vu que j'avais 19 ans, non, peut-être un peu plus, c'était que des tout petits groupes et tout, que je devais essayer de vendre à des journalistes qui n'en avaient rien à foutre. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la promo pour un groupe de post-punk, d'afro post-punk luxembourgeois. Et là, je me suis dit, putain, c'est pas pour moi. Franchement.
En fait, on t'avait vraiment donné le métier ingrat, en fait. C'était vraiment
Bah ouais,
l'ingratitude
c'est
du
hyper
truc.
ingrat comme métier.
Ouais, c'est ingrat.
C'est.
Ouais, quand t'es là, la petite nouvelle ou le petit nouveau, en fait, on te donne les groupes dont les plus chevronnés n'ont pas envie de s'occuper, en fait. C'est ça,
ouais,
le
c'est
truc.
C'est ça, parce que les journalistes, ils s'en battent les couilles. Si toi, tu n'as personne de connu dans ton catalogue, ils ont zéro intérêt à t'écouter, quoi.
Ah, c'est le t'as quand même un groupe que tu retiens, parce que là, je trouve ça intéressant pour remplir un peu ta place. T'as quand même un groupe ou un artiste que t'as retenu de cette époque. C'est un truc qui tu t'es dit, ah, oh ouais, c'était cool ça. Tu vois, genre ça,
oui,
c'était
chouette. Il y en a quand même plusieurs que j'aimais bien. Je bossais un moment avec Loïc Records et ils avaient pas mal de chouettes trucs, genre Annabelle Lee, qui est un groupe que j'aime assez bien. Un peu garage, un peu pop. C'est trois gars et une fille, ou deux gars et une fille maintenant.
Ouais, c'est ce que je suis en train de voir, ouais.
Et c'était vachement stylé. Donc j'aimais bien, tu vois, il y avait vraiment des groupes cool, mais pas tous. Et souvent, je me retrouvais vraiment à faire un truc où je ne comprenais pas le sens derrière, quoi.
Ouais, je veux bien. Ça, c'est le truc le plus. Ça va être tellement relou, je trouve. Parce que, en fait, ça me fait penser. Il y a Tara, qui est ma modératrice dans le chat, qui a fait ce boulot. Et on a déjà parlé de ce métier. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, même la découverte musicale. Alors que pourtant, je trouve que ça devrait être l'essence du métier aussi, tu sais, accompagner des artistes que t'aimes bien ou même des artistes émergents et tout. Je trouve qu'en fait, il est même plus là à un moment donné et très vite, en fait. Et ça, je trouve ça trop dommage parce que, enfin, pour vendre un groupe, tu devrais un minimum kiffer ou on devrait un peu t'écouter, tu vois, dire « Ah, c'est quoi tes sensibilités? Qu'est-ce que tu aimerais mettre un peu en avant de ton côté ?» Parce que moi, je sais que quand on va te confier ce catalogue d'artistes ou ces artistes-là, on sait que tu vas kiffer. Oui, Tara aussi qui m'avait dit ça. Les gens du métier connaissent rien à la musique en plus. Ça,
souvent, vraiment, ouais, t'es face à des programmateurs qui s'en battent les couilles et qui vont mettre que le dernier Calvin Harris. Et qu'à moins qu'il y ait un côté un peu bankable derrière ton groupe, ils vont pas le passer, quoi. Donc,
ouais, parce que tu faisais de la prog quoi, salle ou tu faisais concert ou tu faisais un peu radio aussi. Comment ça se passait de ton côté au niveau du boulot?
Je faisais pas de prog sale, c'était vraiment plus juste avec la presse que je parlais, quoi.
Ouais, pour pouvoir en parler, puis en plus t'avais un peu l'expérience du webzine du coup musical.
Ouais.
Par contre, il y a ce que j'ai envie d'y venir. Je vais quand même utiliser le fait que tu dans le podcast Game Changer, tu parles d'un album qui est important pour toi. Ouais. Parce que donc, je peux dire, vous irez écouter le podcast en entier, on ne va pas répéter. Parce que tu parles de l'album Pure Heroine de Lordi, vous prononcez comme vous voulez. C'est toujours le cas aujourd'hui, cet album a été important, ou en vrai, tu as dû choisir un album pour ce podcast, mais il n'y a pas que celui-là en vrai. Comment ça...
En vrai, il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est un que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup écouté, justement à l'époque où j'étais à l'UNIF et où... C'était la première fois que j'étais en coloc, et avec mon coloc, on l'écoutait énormément en faisant la vaisselle. Et donc, il y a beaucoup de souvenirs liés à ça. Et puis, toujours aujourd'hui, je le trouve vraiment incroyable. Et Lord, pareil que Taylor et tout, tu vois, elle a construit un truc que je trouve fou, alors qu'elle était putain de jeune. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup d'admiration. Et donc, quand ils m'ont demandé de trouver un album, moi, je me suis dit, là, c'était une période assez formatrice pour moi. Et je l'aime toujours énormément, ce disque, donc voilà quoi. Je suis là, ça me semblait être un bon album à aller défendre dans un podcast.
T'as une relation forte entre souvenir et musique, du coup. Il y a encore des trucs que tu réécoutes parce que tu sais que ça va te rappeler des choses, des périodes de vie que t'avais bien kiffé ou des choses comme ça.
Oui et non. En fait, je vais rarement les réécouter. Mais des fois, je tombe dessus par hasard et je me dis « Oh putain, yes, c'était ça en fait. »
Ouais.
Et il y a des trucs comme ça vraiment dont j'ai oublié l'existence. Et puis quand je retombe dessus, je me dis « Oh putain, mais le nombre de fois où j'ai écouté ce truc, quoi.
» Parce que tu fonctionnes comment aujourd'hui, tu t'écoutes encore des albums en entier ou t'es vraiment en mode
ouais,
full
soit
playlist,
des albums, soit tes playlists Spotify de le meilleur de machin et je m'écoute tout ça.
T'es exporté un peu.
Sinon, ouais, je quand même souvent des albums, ouais. Mais je n'ai aucune idée de ce que j'écoute comme morceau, en fait. Je mets juste l'album et balèque.
Ouais, tu t'en fous de connaître un morceau en particulier, sauf s'il touche un peu plus, peut-être.
S'il y a des... Genre, il y a toujours un ou deux qui ressortent, tu vois. Genre, sur l'album de Pomme, c'est Jardin et Septembre. Et puis, je sais que ceux-là, particulièrement, je vais avoir tendance à peut-être commencer l'écoute par ce morceau-là ou quoi.
Ouais. Et tu les mets dans tes playlists à toi, du coup ? T'as des playlists un peu perso que tu remplis ou
Assez peu. C'est dommage parce que franchement, des fois, je sais pas quoi écouter. Mais j'essaye d'un peu plus compiler qu'avant. La seule playlist que j'utilise réellement, c'est ma playlist qui est synchronisée automatiquement avec Shazam. Et comme ça, tous les X temps, je vais réécouter les derniers trucs que j'ai Shazamés. Et je me dis, putain, c'est vrai que c'était bien, en fait.
Meilleure invention, la synchronisation Shazam, playlist Spotify.
C'est incroyable.
Non, mais moi, c'est une fonction que j'utilise tout le temps depuis, je sais pas, 6-7 ans que ça existe. Je recommande à tout le monde parce que même des fois, genre, j'entends une chanson que je connais. C'est pas pour savoir la chanson, mais je Shazam parce que je sais que ça va se mettre dans la playlist. Et que je pourrais la remettre après derrière ou la mettre dans une autre playlist et tout. Ah mais Shazam, c'est vraiment parfait.
C'est le sang,
on adore.
Le sang de la veine.
Mais c'est marrant que tu aies pas, alors que t'as écrit dans des webzines, que t'as eu une relation à la musique vraiment très forte, c'est marrant qu'aujourd'hui t'es pas plus un... Tu digues encore un peu aujourd'hui ? Genre tu vas chercher des CD, tu vas dans la découverte musicale, pas du tout ? Tu te laisses vraiment porter ?
Vraiment pas... Franchement, non, à part quand genre, je lis une interview de quelqu'un ou j'écoute un son, genre par exemple Giorgio, tu vois, c'est un nom que je vois passer depuis des années, j'avais jamais écouté, et puis là, il a sorti un feat avec Cœur de Pirate que j'aime d'amour, et donc j'ai écouté ça, puis je me suis dit, putain, bon garçon, hein. Et donc j'ai commencé à écouter un peu ce qu'il fait, et maintenant j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup ça. Mais voilà, c'est plus un peu par... lien avec un artiste que j'aime déjà et puis je finis là-dessus et je me descends toute la disco de la personne quoi.
Et du coup parce que tu parlais des concerts, ces artistes du coup tu vas les voir après en concert ou pas, ou alors tu te contentes aujourd'hui, t'as peut-être plus trop le temps aussi, parce que je vais pas te mentir, je me rends pas compte du volume de travail que c'est d'aujourd'hui d'être faniré, tu vois. Non mais parce qu'en fait, ouais non mais tu vois c'est, enfin moi je peux me rendre compte à peu près, mais je me rends pas compte si t'as le temps de entre les spectacles, les chroniques, le podcast, etc. Si t'as le temps de...
Ça dépend très fort des périodes. Genre quand je suis en tournée, je sais que c'est impossible et que novembre il faut rien me demander, décembre c'est chaud, janvier c'est mort. Ouais. Donc là, je sais pendant 3 mois c'est compliqué, mais à côté de ça genre là les vacances j'avais énormément de temps libre juillet août. Là, septembre, ça va. Maintenant, le truc qui est compliqué, c'est des fois, je suis à Bruxelles, des fois, je suis à Paris, des fois, je suis en tournée. Donc, en termes d'être au bon endroit, le bon jour pour aller voir un concert, c'est compliqué.
Ouais, ça, c'est chiant.
Et puis surtout, j'ai réalisé que maintenant, je prends vraiment quasiment pas de plaisir supplémentaire à voir un artiste en live qu'à l'écouter chez moi, parce qu'il y a beaucoup Il y a beaucoup de choses qui entrent en collision avec mon plaisir de voir un concert. Il y a les gens, il y a le fait qu'il faut y aller, le fait qu'il fait chaud et machin. Et maintenant, je suis comme, oh là là, je n'ai plus la patience. En fait.
C'est vraiment... Non, mais c'est incroyable parce que l'expérience concert, moi maintenant, tu vois, quand je peux être assis, je le prends, tu vois. Tu vois, vraiment... Ah, tu sais, à une époque, genre, j'étais en mode, oh non, mais la fosse à tout prix, collé à la barrière, let's go. Maintenant, je me dis... Bon, il coûte combien le balcon ou alors le carré or pour être à l'aise et bien placé, tu vois,
ouais,
vraiment,
ouais.
Tu sais, c'est vraiment le vieux. Je sais pas si c'est parce qu'on vieillit, parce que je connais des gens qui ont mon âge qui continuent à kiffer la fosse et tout. Mais j'avoue que l'expérience concert, alors pourtant j'adore ça. Il y a des fois où je suis en mode ouais pour être dans la fosse debout, tu vois, typiquement là Stade de France, Harry Styles, moi j'y vais en juin prochain. J'ai préféré prendre la place assise tout en haut du stade plutôt que le même prix en pelouse, tu vois. Parce que, en fait, parce que je sens que, genre, être en pelouse debout, en plus, attendre 3 heures, tu vois. Ouais, tu vois, Tara dans le chat. Tu vois, Tara dit, par contre, pour moi, c'est la fosse ou rien, tu vois. Genre, c'est vraiment expérience. L'expérience concert, c'est vraiment fausse, tu vois. Moi, je trouve ça. J'y arrive pas du tout. Mais après, toi, c'est peut-être une question de projection aussi. Tu peux plus trop faire de concert. Genre, là, si je te dis, prends tes billets pour Harry Styles le 2 juin 2023.
En fait, ça dépend si c'est un truc où vraiment je sais que c'est incroyable. Genre, là, typiquement, bon, c'est pas un concert, mais il y a Catherine Ryan qui vient jouer à Paris le 17 septembre, qui est une humoriste que j'aime beaucoup. J'ai les tickets depuis un an et demi, et là, je sais que si quelqu'un me bloque mon vendredi, je le tue, en fait. C'est simple.
Tu donc, le mets dans ton agenda, simple. Genre, je ne fais rien, je vais là-bas, en fait.
Ah oui, mais pour ma prod, elle a le truc bloqué, jour off, niquez-vous, quoi. Et si c'est un truc vraiment que j'aime, genre, si tu me dis à Céline Dion qui vient au Cirque Royal, je te dis, mais je suis libre, ah quoi ouais, que
voilà.
Je fasse.
Donc voilà, c'est terminé, quoi, c'est sûr. J'aimais... Ouais. Ah oui, Tara qui dit, j'ai mes billets pour Anna Gatsby depuis presque un an et demi. Oui, c'est vrai que vous aviez pris tous vos... J'ai vu toute la commune prendre pour Anna Gatsby Catherine Ryan, ça m'aurait bien pris aussi. Des humoristes incroyables. Puis en plus, on a la chance qu'ils viennent en Europe. Et c'est genre, faut pas louper la fenêtre, quoi, de toute façon.
Ouais, ouais, c'est ça. Il y a une date et puis t'attends 5 ans.
Voilà, c'est ça. Allez, allez, ciao, quoi. C'est le terme.
Et puis dans 4, ils sont cancels, donc tu fais comment, oh, putain.
Bah, c'est en plus, tu sais, c'est un peu le. Pardon, mais c'est un peu. Putain, merde, je suis désolé de reparler de ça, mais. C'est vraiment le cas d'Arcade Fire, quoi, tu vois.
Ouais.
Tu vois, moi, j'étais là, j'étais trop bouillant, tu vois, j'étais chaud.
Ouais.
Il passe à Nantes, et il passe pas souvent à Nantes, tu vois.
Ah
et
bah, j'imagine, ouais.
J'étais là, genre, allez, parfait, pas besoin de se déplacer à Paname, Paris, nickel. Vraiment, je le jure, je me dis, allez, semaine prochaine, je touche l'argent de Twitch, je prends ma place, tu vois. 3 jours avant l'article sur Win Butler, et je fais... Bah let's go quoi, tu vois, genre c'est ça, tu vois, il y a même des gens dans le chat qui disent faut que je revende ma place d'ailleurs, tu vois. Il y a vraiment des gens, tu te dis voilà, tu te retrouves dans une position, bah c'est, et encore moi je me dis j'ai pas acheté ma place, donc je me retrouve pas dans la position à la revendre, quoi. Mais ouais, non,
ouais,
c'est...
Mais c'est chaud, mais maintenant tu peux plus compter sur le fait que les gens restent des bonnes personnes plus d'un an, genre vraiment c'est chaud. D'ailleurs, mais c'est un vrai truc, moi il y a des trucs, j'hésite à faire des projets... avec des mecs, parce que je me dis, ouais, tu peux être sûr que s'il y a 6 mecs, dans les 10 ans, il y en a un qui saute au moins. C'est sûr. C'est sûr.
C'est... Je peux révéler ça, et je pense que ça la dérangera pas. C'est une discussion qu'on a eue avec une de mes modératrices, Morgane, Momomotus, dans le chat, qui est beaucoup dans le milieu de la musique, etc. Très engagée aussi sur les questions du féminisme. Elle a fait partie de tout un collectif et elle a fait une tribune notamment sur le harcèlement qui a eu lieu et les agressions qu'il y a eu à Rennes, dans la ville de Rennes, tu vois. Et elle me disait littéralement en privé la phrase « En vrai, si tu veux éviter quelqu'un de problématique, faut arrêter de voir les mecs en concert. » Tout simplement. Faut plus aller voir des mecs en concert. C'est fou, mais ça s'avère franchement vrai, tu vois. Toi, tu te dis même Arcade Fire, toi, j'étais là genre en fait, t'en arrives à avoir des phrases, même Arcade Fire, alors qu'en vrai, personne n'essaye.
Ouais,
en fait.
On sait pas, ouais.
Ouais, ça, en fait, personne, mais si tu dis... En fait, je pense que c'est quand c'est quelqu'un que tu portes... en fait, t'as une estime assez haute pour la personne et les créations aussi. Mais en fait, tu te dis, bah, pas possible, après, voilà. Ouais, Alain Souchon, en vrai, tiens-toi, Caro. Tu sais, je vais voir Alain Souchon, t'as peur, hein, tu dis, on sait jamais, même Alain, mais là, je serais dévasté, tu vois.
Ouais, mais en même temps, il y a 40 ans, c'était pas la même époque, on faisait beaucoup plus de choses.
Ah là là, et attends,
non, mais d'un côté, lui, il a juste à tenir 10 ans, et si ça éclate après qu'il soit mort, il est refait. Ah, écoute, c'est vrai. Ouais.
En même temps, j'ai envie de te dire, ça fait... F, Alain. Voilà, on embrasse Alain, évidemment. C'est infernal. Ah oh là là. Mince, je dois avoir Phoenix, je dois revendre ma place. Mais non, vous ne devez pas revendre. Ne revendez pas vos places non plus. On n'est pas non plus rentré dans une paranoïa, etc. C'est pas ce que je dis. Et puis encore, je juge... J'ai vu quelqu'un qui me disait qu'il allait voir Arcade Fire et qu'il gardait sa place et qu'il allait voir. Je juge personne. On n'est pas là pour juger les gens. J'ai déjà dit, si vous avez une attache, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais que ce soit pour aller voir les gens ou pour... enfin, moi, c'est ce que je pense. Je parle pas au nom de Fanny, mais moi, j'ai déjà dit que vous écoutiez dans votre coin, que vous alliez au concert. Faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour juger. Si vous avez une attache émotionnelle avec la personne, voilà. Je suis pas la police de la vertu. Je suis pas là pour juger. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce qui me dérange plus, c'est quand on en fait la promotion à tout prix et qu'on défend le truc. Corps et âme, alors qu'on sait très bien qu'il y a des accusations au cul. Moi, c'est plus ça qui me dérange aujourd'hui. Et peut-être qu'un jour j'évoluerai, je serai encore plus radical. Voilà, moi, mais c'est mon avis à moi, bien sûr.
Ça, peut-être qu'un jour tu agresseras des femmes.
Ah, arrête, non, jamais, évidemment jamais. Évidemment,
alors,
jamais.
Pour la maman de Flonflon, c'est une blague.
Ah oui, 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 oui. Si ma mère est encore là, si ma mère est encore là, on va dire oula, 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 oula. sur les découvertes musicales, j'avais envie de te poser un peu des questions plus précises. Parce que du coup, je suppose que tu es beaucoup en train de. Tu vadrouilles beaucoup, énormément. T'écoutes de la musique. Tu baroudes, baroudeuse de fou. T'écoutes un peu musique quand tu baroudes. Est-ce que tu as des albums, des playlists, des trucs auxquels t'aimes bien, tu te rattaches
Non, pas tellement. Quand je suis en tournée, la seule playlist que j'écoute tout le temps, que j'entends tout le temps, c'est celle qui passe avant mon spectacle. C'est une playlist où j'ai mis que des trucs années 2000, Star Academy, Laurie,
incroyable.
L'âme, Ozone. Crazy Frog, évidemment. Et ça, elle est dans la salle avant le spectacle. Et donc, je l'entends tous les soirs où je joue. Mais sinon, non, vu qu'on est beaucoup, beaucoup dans les trains, en général, je bosse et donc j'ai autre chose. Soit je mets de la musique classique pour bosser, soit... Ah, d'ailleurs, là, la seule playlist que j'ai, c'est celle de Aliette Delalleux, qui bosse. Sur les femmes compositrices de musique classique. Et donc ça, c'est vraiment ma playlist pour bosser, j'écoute que ça. Et elle est vraiment très très cool. Et puis voilà, sinon, en général, j'ai un ou deux albums sur lesquels je suis beaucoup. Pomme, Giorgio, Camélia Jordana, j'ai beaucoup écouté aussi. Là, je suis beaucoup sur le premier de Kanye West. Un peu des trucs comme ça, mais sinon, non, assez peu de musique, je dirais.
Ah ouais, tu t'es vraiment détaché de la musique, en fait, finalement.
T'es ouf.
Ouais, parce que t'as eu un rejet par rapport au métier que tu faisais, ou alors...
Que ça a joué, ouais. Je pense qu'il y a un peu un truc de... Ça m'a fait de la peine, dans le sens où j'ai vu tellement de groupes bosser de ouf pour des résultats... Enfin, pour de la reconnaissance quasiment inexistante, qu'il y avait un truc vraiment, ça me faisait mal au cœur de voir à quel point il y avait tout ce travail, toute cette bonne volonté, tout ce talent parfois qui allait absolument nulle part. Et ça m'a, ça m'a un peu flingué. Et ça m'a, ouais, je pense, un peu fait que je me suis reculée de tout ce milieu-là. Et puis aussi, à un côté, c'était une période donc, que j'aimais pas trop. Et donc maintenant, quand je vais à un festival, à un concert, et que je vois que c'est toujours exact, une question et tout, ça me déprime.
Ouais, ça doit être hyper... Ouais, je peux comprendre. Parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai encore le truc naïf, parce que je suis toujours resté du côté... comment dire ? Le côté cool, en fait, tu vois. J'ai parlé de musique, j'ai jamais été dans la... Les mains dans le cambouis, en fait. J'ai toujours été webzine. Après, moi, j'ai fait de la radio. En fait, j'ai toujours été dans le côté, je vais dans les festivals pour interviewer les artistes. Et les artistes déjà confirmés, en fait, celles et ceux qui étaient là. Et même quand c'était des plus petits festivals, c'était des artistes qu'on aimait bien voir. Ouais, alors que quand t'es dans le milieu, tu vois de ces trucs, ça doit être... Mais c'est ouf qu'au point de se détacher d'aller faire des découvertes et d'écouter des trucs... Je trouve ça fou.
Mais il n'y avait pas que ça. Hein. Je pense que c'est aussi le fait que quand j'ai commencé à beaucoup faire de l'humour, j'avais beaucoup moins de temps. Et donc, voilà, c'est un peu un mélange de tout. Et donc, voilà. Puis, à partir du moment où je n'avais plus cette obligation, entre guillemets, via la vague parallèle, de devoir découvrir des trucs, de devoir faire des playlists ou de devoir checker des clips et tout, bah, si j'ai plus l'obligation, j'oubliais et puis le temps passait. Et puis voilà, et puis des fois, maintenant, je retombe sur les trucs, je me dis, putain, eux, ils ont sorti un nouvel album il y a 2 ans, j'étais pas du tout au courant, quoi. Dans ma tête, ils étaient morts. Donc, c'était...
En fait, c'est exactement comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si t'as pas l'obligation, qu'il n'y a pas de finalité, pourquoi j'irais écouter? Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as un rapport aujourd'hui à la musique de, comment dire, c'est un habillage, tu vois, genre c'est...
Ouais.
Ça accompagne. Ouais, c'est ça. C'est pas plus que ça, je trouve ça... Non, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, ça. Les gens ont toujours un rapport un peu très important à la musique. Mais ouais, il y a de l'émotion. Alors que toi, j'ai l'impression aujourd'hui que tu te détaches un peu de tout ça. T'as rien qui te... Bah, si, t'as un peu des textes, tu parlais quand même des artistes comme Pomme. T'arrives encore un peu quand même à t'attacher à des choses. Enfin, tu penses que c'est... Ou tu garderas toujours une distance maintenant, tu penses, sur l'écoute musicale.
Je pense que maintenant, je suis beaucoup plus attachée à des choses où vraiment il y a une histoire, il y a un début, une fin et tout, tu vois. Donc c'est, je pense, pour ça que pour l'instant j'aime assez bien le rap francophone, tu vois, comme Giorgio. C'est vraiment, déjà c'est en français, donc je comprends tout instantanément sans avoir besoin de me concentrer. Et puis tantôt hier j'ai écouté, je sais pas si tu vois Younes,
Non.
qui un petit rappeur, il doit avoir 25 ans, il a joué dans Drôle sur Netflix et il
Ah,
fait du
yes, oui.
rap aussi. Et il a sorti une chanson qui s'appelle Araga que j'ai écoutée hier pour la première fois. Et là, c'est toute une histoire de quelqu'un qui essaie de traverser la Méditerranée et tout. Et tu vois, ce genre de choses, ça me touche beaucoup. Déjà parce que c'est déprimant as fuck. Et parce que vraiment, là, il y a une histoire. C'est beaucoup plus scénarisé, tu vois. Là où dans des trucs plus pop ou plus commerciaux aujourd'hui, je m'y retrouverai pas parce que c'est, ils disent pas grand-chose, c'est un peu redondant. Et donc, il n'y a pas ce truc vraiment de progression au fil de la chanson. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais chercher plus des histoires longues, des histoires qui ont du sens. Et donc en musique, en 3 minutes, bah souvent t'es assez limité. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup plus me retrouver dans des séries ou dans des livres, quoi.
Ouais, avec des il faut vraiment une trame. Oui, c'est vrai que Nao-chan dit le feat de Younes avec Medine. Je voyais pas qui
Ouais,
était Younes, mais en fait
c'est le
je
problème.
ouais, qui est un super, parce qu'en fait je défends vachement Medine en ce moment, parce que son album Made in France est vraiment un des gros albums de cette année, dans le rap français. Personne s'en rend compte, mais c'est vraiment un des plus gros disques de l'année. Et c'est hyper puissant, justement, sur les histoires et tout, sur les paroles. Mais Younes, j'irai écouter un peu plus en détail. Je pensais qu'il rappait de temps en temps, mais que c'était plus un acteur aujourd'hui, du coup. Parce qu'il est vraiment en plus.
Bah, il fait
Parce que
vachement les deux et
dans Drôle, il est. Enfin,
il est
vraiment.
incroyable. Pour moi, c'est lui vraiment qui porte la série. C'est lui et le reste est autour, mais c'est son personnage de Nézir qui porte la série. Il est incroyable. Et je pense qu'il a encore des tournages, mais il met vraiment l'accent de ouf sur le rap et il bosse aussi avec Tiff et il essaie de développer un peu sa carrière. Et franchement, mais je pense que c'est une bonne chose dans l'artistique d'avoir plusieurs carrières parallèles. Parce que si tu tiens trop à ce que ça marche dans un domaine, ça te bousille le cerveau et tu deviens moins bon, je pense, parce que tu as vraiment la tête dans le guidon et tu vois plus les trucs autour. Et c'est ça que moi, je suis trop contente d'avoir les podcasts, la radio, le stand-up et d'écrire d'autres choses qui sont pas forcément drôles sur le côté, parce que ça permet de t'aérer un peu la tête. Parce que si tu as trop la tête dans le guidon, tu commences à faire n'importe quoi et tu sur quoi.
Ouais, ça doit être. En fait, moi, c'est un peu le truc aujourd'hui que je ressens, de faire que Twitch, tu vois, et de parler de musique. C'est que des fois, je me dis que j'aimerais bien faire un autre truc histoire de décompresser. Parce que c'est aussi une question de décompression. T'as un peu l'impression de sortir un peu de la bulle dans laquelle t'es. Parce que des fois, au bout d'un moment, tu réfléchis trop, en fait. Je trouve que tu réfléchis trop. Je suppose que, par exemple, si toi, t'étais. Et c'est un peu le syndrome que j'ai vu avec des potes humoristes, si t'es que humoriste. À un moment donné, j'ai l'impression que tu finis par te prendre la tête dans ton propre métier, justement, de.
Ah
Mais.
ouais, des fois tu chipotes sur des détails et
Ouais.
tu pètes des câbles pour des trucs où en fait il suffit que tu prennes une seconde de recul et tu dis oh putain, c'est juste une blague en fait,
Ouais,
on
c'est
s'en
ça.
bat les couilles.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Puis même dans le milieu, je suppose que. Enfin, moi, ça me fait un peu ça. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça peut-être dans le milieu de l'humour à un moment donné, mais le côté aussi. Tu te prends la tête aussi sur la concurrence, tu vois. Genre. Où tu te dis, oh là là, tu te poses 1000 questions, mais alors si je fais ça, si je fais ci, mais alors lui il a fait ça en fait, donc je peux pas le faire. Ouais. Mais du coup, ouais, ça va être. Mais ouais, du coup, c'est ça, multi-casquette, ça te permet vraiment, à mon avis, de prendre du recul sur plein de choses. Ça va être.
Ouais, et puis en fait, le fait de moins tenir aux choses, d'avoir moins besoin que ça marche, ça te rend beaucoup plus fort, je pense, parce que t'es moins obstiné, mais d'une mauvaise façon, quoi. Que ça t'aurait vraiment grignoté ton énergie. Et au moins, là, tu te nourris de plusieurs choses. Moi, le fait de lire des trucs pour écrire des scénarios, bah, ça m'aide beaucoup pour l'écriture du spectacle. Et puis l'écriture du spectacle, ça m'aide à puncher un peu des scénarios. Et donc, tu vois, ça se nourrit tout le temps. Et l'équilibre entre plusieurs domaines est hyper important, je trouve. Et d'ailleurs, dans Drôle, j'en avais parlé avec Fanny Herrero, donc, qui a créé la série. Et elle me disait que enfin, Younes, il l'avait pris justement parce qu'il jouait tellement bien ce truc. Il avait une super bonne vibe pour le stand-up parce qu'il faisait du rap. Il avait un truc dans sa rythmique de parole.
Ouais, je
Il
comprends,
avait
c'est un
tous
truc fou.
super bon, qui était super cool pour la comédie aussi, parce que c'est assez similaire, en fait. Et donc, c'est, voilà, et c'est vraiment les deux domaines qui l'ont nourri à ce niveau-là, quoi. Mmh.
Tu avais aidé, c'est ça, l'écriture de... Comment ça s'est passé? Tu as aidé à l'écriture de la série, c'est
des
ça
blagues.
C'était les
J'ai
blagues, c'est ça
pour l'écriture des blagues de la série, quand les personnages, ils font du stand-up.
Quand ils sont sur scène, c'était, certaines vannes, elles étaient à toi, du coup. C'était, ouais, c'était à toi, c'est toi qui les avais écrites. Tu n'as pas du tout participé à l'aspect scénario, ensuite d'histoire, etc. C'était vraiment ton expertise de comédienne
début...
sur scène.
Ouais, mais en fait, au début, on a un peu nourri le scénario dans le sens où, vu que c'était une équipe qui, de base, ne connaissait pas le stand-up, ben, on a fait beaucoup de tables rondes où on discutait de comment ça se passe, de comment on gère notre ego, de c'est quoi le pire truc qui nous est déjà arrivé dans ce milieu. Et donc, comme ça, les personnages, ben, ça leur faisait une backstory et ils pouvaient s'approprier des anecdotes qu'on avait vécues, quoi.
Mmh, pour les nourrir, etc. Mais mine de... moi, il y a un truc, je ne sais pas si ça t'a servi, parce que quand même, t'as énormément quand même été... tourner sur la musique. Je sais pas si au moment de monter sur scène, ça t'a aidé pour ton rythme à toi. Parce que je trouve qu'il y a bien un truc que je connais, du coup, et aimant beaucoup le stand-up, et du coup, ayant testé une fois, c'est que tout se joue, en fait, sur le rythme, sur le... Je sais pas si ça t'a aidé en termes de tempo, mais c'est un truc de fou, je trouve. Je sais pas comment t'as réussi à régler ton tempo, toi, sur scène, au fur et à mesure.
Je n'en ai aucune idée. Je sais pas comment ça s'est fait, comment ça s'est goupillé, si ça m'a aidé ou pas. J'ai tout fait assez vite et donc j'ai pas eu le temps de réfléchir à ce genre de choses. Je ne me suis pas demandé est-ce qu'il faut que je laisse un peu. Tout était assez intuitif. Et puis de toute façon, l'avantage avec le stand-up, c'est que tu fais de l'essai-erreur en permanence. Et donc si ta scène à 20h, elle s'est mal passée, bah, peut-être qu'à 22h, elle sera mieux parce que tu vas rajouter une seconde en plus, quoi. Et donc c'est juste, tu finis par trouver un peu le bon endroit où te mettre, le bon ton, le bon rythme tout seul, quoi.
Et est-ce que t'aimes bien, hormis la playlist, Fanny fait du stand-up depuis combien de temps, t'as demandé Tara dans le chat
Je pense que ça fait 4 ans, un truc du style.
Ah, c'est court. Ah, j'aurais dit plus longtemps.
Ouais, ouais.
Ah, c'est pas si long que ça. Ah ouais, je crois que t'en faisais depuis bien plus longtemps, moi. Moi, je te voyais plutôt 6 ans. Moi, je voyais...
Non, il y a 6 ans, j'étais à l'UNIF, je crois.
Ouais,
je
c'est ça.
À l'UNIF.
Ah, ouais. C'est un truc, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Tout à l'heure, parce que j'ai envie de revenir là-dessus quand même, on parlait de l'album de Lorde. Lordi, voilà, pure héroïne. Mais tu disais qu'il y avait d'autres disques qui t'avaient marqué. On a parlé de Wow, de Superbus. on a parlé de la Starac, etc. aussi. Je pense que c'est des albums qui sont importants. En fait, on peut en rigoler aujourd'hui, mais mine de rien, ça t'a... Il y a d'autres disques comme ça qui t'ont marqué dans ta vie, des trucs dont tu te souviens, ou vraiment des trucs, tu raccroches vraiment des souvenirs où tu en reparlerais volontiers, tu vois.
Attends, je vais voir ce que j'avais fait, une petite liste et tout. Je sais que... Attends, t'entends ?
Ouais, je t'entends.
Tac, tac, tac. Bah, les albums, vraiment, là, je ne saurais pas t'en dire un comme ça. Par contre, j'ai des musiques qui sont associées à des époques ou à des endroits, tu vois. Genre, la première fois que je suis allée à Montréal, vraiment, j'ai pris ma valise, je suis partie toute seule pendant 10 jours à Montréal et c'était trop bien. Et là, j'écoutais en boucle deux albums, un de Boy qui s'appelle We Were Here. Boy, c'est deux meufs suisso-allemandes ou je sais pas quoi, et c'est un peu de la folk, ouais, pop folk comme ça, que j'aime vraiment beaucoup de ouf.
Je me souviens de Boy, je sais pas pourquoi, ça ressort
parce que
comme
c'est
ça.
Un super groupe, hein.
Ouais.
C'est il était vraiment stylé. Et j'ai écouté aussi Falls, c'était lequel, We Went Down ou un truc du style.
Oui, c'est le What Went Down, c'est l'album de 2015, ouais, qui était trop
bien. Ouais, c'est ça. Ben, c'était en 2015 et en effet j'ai écouté ces deux disques là en boucle et du coup maintenant quand je les entends, c'est vraiment c'est Montréal, c'est telle rue, c'est tel truc, et c'est vraiment hyper lié à ça. Et donc j'ai parfois ce genre de souvenirs quand j'ai beaucoup écouté des disques dans des endroits où je ne vis pas. Et j'ai eu ça l'année dernière aussi à Paris. J'ai joué pendant 4 mois à Paris et j'écoutais tout le temps Balavoine. C'était vraiment Obsession Balade.
Incroyable.
Ouais, et c'était même pas un album, c'était juste vraiment la playlist Spotify de les meilleurs succès de Balavoine. Et
This is Daniel Balavoine, quoi, c'est vraiment...
Ouais, c'est ça.
Et exactement, et, ouais, je vois bien.
This was vraiment Balavoine de ouf. et y a une chanson qui s'appelle Les Oiseaux par deux, qui est incroyable. Et pour moi, c'est la meilleure chanson de Balavoine. Et c'est grâce à Pyjama que je l'avais découverte, parce qu'elle avait posté une story où elle était. Et cette chanson est incroyable, et pour moi c'est vraiment ce truc de je me vois marcher à Paris en allant jouer, en allant faire les chroniques et tout, et donc ça c'est vraiment associé à ça, quoi.
Mais parce que tout à l'heure tu parlais de ton papa qui écoutait de la musique à la maison, t'as quand même un héritage de musical, des choses qu'on t'a donné, parce que Daniel Balavoine, tu vois, ça aurait pu être l'artiste que ton papa ou ta maman écoutait, tu vois, à fond.
Non, Balavoine, c'est un héritage Star Academy, hein, tous les cris des SOS, premier prime de Grégory avec Radia et Sofiane, tu connais.
Évidemment, évidemment.
Un des meilleurs moments de toute la Starac. Hein.
J'adore.
Là, on savait déjà qu'il allait gagner. Hein.
Ah, bien sûr, bah, le moment où le public fait oh, vraiment. De revoir le passage, tu sais que vraiment, on entend le public qui fait. On entend vraiment un truc qu'on n'a jamais entendu, c'est vraiment le public qui fait waouh, mais il a une belle voix, t'es genre vraiment ah ouais,
et puis à côté de ça t'as Eva,
ouais, voilà, c'est ça. Tu sais que bon, quand on, eh ben, je sais pas si t'as vu les primes des 20 ans de la Star Academy, les primes qu'il y a eu anniversaire, ouais, l'année dernière, mais tu sais que Michel Sardou qui était le parrain de la saison 4, apparemment il commençait à dire à toute la prod et tout, genre vraiment, genre, arrêtez la saison, vous avez déjà votre gagnant, tu vois. Et on lui disait de se taire en mode, non mais arrête, stop, oui, oui. Genre arrête, faut pas dire ça, tu vois, ça se dit pas. On est au tout début de la Star Academy, faut pas dire, tu vois, ça se dit pas, je trouve ça trop bien. Mais les découvertes musicales par la télé, c'est trop cool. À part les émissions, t'as des souvenirs de, je sais pas, c'est de films, de séries qui t'ont fait découvrir des musiques, parce que je te pose cette question parce qu'il y avait un truc intéressant. Vous aviez fait un lien dans le podcast Game Changer entre l'esthétique de Lorde et ce qu'elle a apporté ensuite, notamment des trucs qui se sont répercutés dans des séries comme Euphoria et tout. Et en plus, Euphoria est connu pour avoir une BO de tonnerre. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as découvert grâce aux séries et aux films, peut-être?
Je pense que je vais l'avoir là. Hop, ça. Je l'aurais jamais jeté.
Oh là. Oh, One Tree Hill. Alors.
Ouais, monsieur.
Alors, je connais excellemment bien cet album puisque ma petite sœur était méga fan. Donc c'est les frères Scott en français.
Ouais.
Elle avait ce disque. Je l'ai écouté par procuration, on peut le dire. Alors voilà, dans le chat, je sais qu'il adore What You Eat, là, évidemment. Ah là là, Michel Featherstone, ma vie. Ah là, ça commence à balancer. Ah bah, cet album est exceptionnel. Hein. Ah là là, ah, Tim Peyton ou Tim Brooke dans
le chat. Alors, ah, moi, vraiment, j'étais Tim Brooke de ouf, sauf à la saison 2 où Peyton se lisse les cheveux. Et là, j'étais comme, oh my god.
Si
je ne sais pas si j'avais envie d'être elle ou de la Ken.
Ah, j'adore, c'est si précis. Ah bah après, les deux peut-être finalement, les deux.
Bah, je pense que elle, oui, dans la saison 2, mais Brooke, je voulais vraiment juste la Ken. Et il y a un épisode où Brooke se fait surprendre, pas suspendre, elle se fait surprendre en train
doucement,
de se brookiser.
Fanny Brooke. Non, pardon, elle se fait surprendre, tu disais, pardon.
Elle se fait surprendre en train de se brookiser, donc c'est se masturber, mais dans la VF, c'était brookiser. Et j'étais comme, oh mon Dieu,
ah, mon Dieu.
I feel things.
Et donc, t'as gardé l'album.
Mais en vrai, c'est mon coloc qui me l'a offert il y a genre peut-être 6 ans, donc c'était pas, il n'y a pas si longtemps, tu vois. Mais c'est juste vraiment déjà le fait que ce soit pas juste un album de série, mais que c'est la mixtape qu'elle a faite dans la saison 1 ou je sais pas quoi.
Méga
et
malin.
Et puis
ça.
En vrai, les groupes sont trop trop bien, quoi.
Bah, ça c'est quelque chose dont on a pas mal parlé aussi. Les séries qui mettaient en scène des groupes de musique et c'était les vrais. Et ça que je pense que le One Tree Hill a été un des meilleurs exemples de ça. C'était fou de les groupes qui passaient dans cette série en fait. Ouais, la DA musicale, vraiment à un moment donné, c'était le. c'était vraiment l'endroit, j'ai l'impression, pour certains groupes, à mon avis pour certains labels aussi, c'était les groupes, enfin c'était la série où il fallait être en fait, enfin, vraiment, parce que je pense que la visibilité, elle devait être hallucinante à mon avis, pour l'époque, mais à se retrouver dans les We Fall Out Boy, voilà, je me souviens de ça, parce que du coup j'ai fini par regarder la série, puisque ma sœur regardait tout le temps. C'est vrai que j'étais là genre, putain, mais les parties musicales, elles sont ouf. On a beaucoup parlé aussi il y avait Grey's Anatomy aussi, sur les premières saisons, où les bandes originales étaient hyper travaillées.
Ouais,
on a
parlé... Chasing Cars et tout, c'est là que ça a démarré.
Ouais, de ouf, c'était fou. On a parlé aussi de la saga Twilight aussi, les BO des films Twilight, qui étaient des grosses bandes originales, et c'est trop bien. C'est incroyable que tu l'aies enfin, compte. Du coup, t'es le CD aujourd'hui, que tu le gardes.
Ouais.
ça fout. Non, mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et t'as plutôt peut-être des films. Et, est-ce que toi, t'es du genre à... C'est les BO de films, mais vraiment les BO composés spécialement pour les films. Est-ce que c'est des trucs qui touchent là-dedans ou pas?
Les BO composés pour les films. Ouais. Alors j'en ai un que je trouve fou. Bon, c'était pour une série Canal. C'est celui-ci, Les Revenants de Mogwai.
Ouais.
Que je trouve incroyable.
Ah ouais, ouais, elle est trop trop bien. On va même le mettre dans ta playlist, évidemment, parce que ça c'est.
C'est je trouve la BO est incroyable, la série est folle, c'est la première fois que je voyais une série française que je trouvais vraiment qualitative, et
c'est ce que tout le monde disait à l'époque, vraiment.
Mais c'est là, je trouve que c'était vraiment le début des créations Canal hyper hyper quali, et puis là j'ai entendu qu'ils avaient fait la musique. Attends, j'ai regardé une série dont ils avaient aussi fait la musique et c'était aussi trop bien.
Mogwai, je vois que c'est la série Blackbird, ça va être ça.
Oui, c'est ça, Blackbird, série incroyable.
Okay. Je connais pas du tout, c'est sûr. Apple TV, ah oui, Apple TV Plus. Ouais.
Apple TV, c'est l'histoire d'un mec qui se fait coffrer pour trafic de drogue, machin, et on lui dit, on fait tomber ta peine de 10 ans si tu acceptes d'aller dans une autre prison et d'obtenir les aveux de quelqu'un qui est accusé d'avoir violé et tué des jeunes filles. Et donc, il se retrouve à devoir aller discuter avec cette personne qui a fait des choses atroces et devoir essayer de trouver cette info et tout. Et c'est avec Taron Egerton qui est incroyable. Et le second acteur, je ne connais pas son nom, mais il est malade. Il est fou. Franchement, c'est incroyable, cette série.
Ça me donne trop envie de regarder. Mais comme quoi, mine de rien, la musique t'intéresse encore un peu. Enfin, ça t'accroche quand même. Tu reconnais...
Ben, en tout cas, oui, j'ai quand même reconnu Mogwai et cette ambiance. En fait, c'est plus l'ambiance que ça a donné à la série que je trouvais incroyable. Et des trucs comme Euphoria, en fait. C'est quand la musique prend un rôle à part entière dans la série, c'est fou. Euphoria, la scène de fin de la saison 1, elle est folle.
Ouais, c'est trop
choré,
bien.
Cette chorée, cette musique et tout, elle est incroyable.
Ah, quand il y a un gros travail, ouais, c'est sûr. C'est
ouais. Et tu vois qu'ils ont taffé, mais des jours et des jours, quoi.
Mais mine de rien, je trouve que, en fait, finalement, de mettre une playlist avant ton spectacle l'année 2000, ça joue aussi dans l'ambiance que tu veux amener dans le...
Ah ouais, de ouf.
Dans
de
ta
ouf.
Salle, en fait. C'est,
ouais, si j'ai envie que les gens, ils soient bien, ils sont... Enfin, tu vois, assez vite, je fais une blague sur la Starac.
Ça arrive vrai, direct avec une blague sur la Starac, c'est vrai, il faudrait vraiment que je vienne te voir.
Non, c'est dans les 10-15 premières minutes, je pense.
Incroyable.
Un truc sur Grégory Le Marchal. Et... Voilà, c'est pas une bonne blague, mais c'est une blague.
Ouais, c'est une blague. Ouais, bon, je prends ma place pour voir ça. Oh là là là, regardez. Et je vous rappelle les dates de Fanny, évidemment, qui est en tournée en Belgique et en France, les deux, du coup.
Et au Canada, c'est au Canada.
Et au Canada, oui, c'est vrai que je viens de voir. Luxembourg aussi, je vois le.
Oh, écoutez, oui.
Hein. En 2023, regardez, elle est bookée jusqu'à 2023. Oh là là, regardez. Oh là, c'est cette femme du monde, là. Oh là là, on la retient. On la retient plus. Est-ce que tu as encore des morceaux, avant qu'on termine cette émission, est-ce que tu as des morceaux dont tu n'as pas parlé? Tu vois, des trucs, je sais pas, qui, je t'ai pas posé peut-être les bonnes questions, il y a des trucs, je sais pas, qui t'ont marqué, je sais pas, quand tu as même essayé de faire un peu de musique, des trucs que tu as voulu apprendre à tout prix, quand tu as voulu faire la pratique d'un instrument.
Non, là, il n'y a pas longtemps, sur une brocante, j'ai racheté un disque, un livre de tablature des Arctic Monkeys, en me disant c'est les vacances, je vais me remettre à la guitare. Évidemment, je ne l'ai pas du tout fait, mais je trouvais que les Arctic Monkeys c'était vraiment un bon truc parce qu'il y a des riffs qui ne sont pas difficiles mais qui sont hyper catchy et tout. Ouais. Et donc, ça, voilà, ce genre de choses, j'aime assez bien.
Tu es une Arctic Monkeys de Zouz, si je peux dire ça comme ça, tu aimes bien le groupe ou alors c'était juste parce que t'aimes bien et tu t'es dit que c'était simple pour
J'aime beaucoup le groupe. Maintenant, j'ai pas du tout écouté, tu vois, et je suis pas du tout une ultra en mode le premier album c'était le mieux, parce que moi je trouve pas, et que j'ai découvert un peu sur le tard aussi, mais ouais, j'aime vraiment bien certains albums et je trouve ils ont un truc qui est à la fois subtil, à la fois très facile d'accès. Et donc ouais, j'aime bien. Puis bon, l'attitude joue beaucoup, quoi.
Ouais, ils sont forts. En plus, c'est vraiment un groupe qui a une discographie, je trouve, hyper intéressante. Que ce soit les premiers disques un peu rock brutal, et puis après on tombe sur un truc plus soul. Mmh. Où y en a, enfin, Alex Turner, là dans les derniers albums, clairement, il veut faire le crooner, donc c'est trop drôle de le voir plus crooner avec une voix un peu plus suave, même sur les rythmes. J'adore.
On dirait un enfant qui a trouvé le costume de son papa et qui l'a mis, quoi.
Mais de ouf, c'est tellement ça. Mais j'adore cette attitude. En fait, il y a tout dans l'attitude de ce groupe. Et apparemment, sur scène, c'est incroyable. Beaucoup ont parlé de rock en scène, mais apparemment, c'était vraiment, vraiment très chouette, ouais. Ouais, c'est ça. Alex Turner qui a commencé en jogging et qui finit en costard. C'est
pas notre ambition à tous.
Mais en même temps, c'est un peu ça, tu vois. On est tous là en jogging, on veut terminer bien, tu vois. On va être bien. Tu vois, je suis en t-shirt Starac. Dans 2 ans, je suis en costard à présenter cette émission.
Ah, mais ouais, on met la daronne à l'abri, tu connais.
Bah, bien, on va être bien, tu vois. Donc, l'Arctic Monkeys, j'ai ajouté hein, dans ta playlist des petits morceaux. Bah, écoute, je pense qu'on a parlé de tout, Fanny. À moins que tu voulais quelque chose. T'avais préparé une petite playlist peut-être de ton côté, une petite liste. Il y a des trucs peut-être que tu que tu dis. Tiens, j'ai pas évoqué ça bizarrement.
Non, vraiment, on a parlé de tout.
Ouais. Parce que j'allais même te poser la question de si t'avais des artistes, un artiste ou une artiste ou un groupe un peu plus confidentiel, peut-être dont on n'entend pas beaucoup parler, que t'as envie de mettre en avant, dont t'as envie de parler en mode. Vraiment, écoutez ça en vrai, on n'entend pas, ah oui, c'est vrai que j'ai pas posé cette question-là, c'est vrai, j'ai pas posé cette question-là. Me demande dans mon chat, est-ce que tu as, en général, ce qu'on appelle un earworm ? Je sais pas si tu vois ce que c'est.
C'est un morceau qui te revient dans la tête.
Ah ouais, le truc qui te pourrit la tête, c'est un truc où tu sais que un ou plusieurs morceaux, tu vois, mais il y en a un comme ça où tu dis, oh, ce truc-là, je le chantonne, mais constamment, tu vois.
Ah oui, attends, il y en a un que je chante tout le temps en tournée, mais c'est une chanson que j'aime pas, mais...
c'est pas grave.
C'est un truc qui fait « Insensé, insensé, elle reste ta meilleure amie ».
Ah oui, c'est Gims en fait ça, non c'est pas Gims,
c'est
attends.
Possible, ouais.
Ça va être Maître Gims.
Ou Section d'Assaut, ou un
ou alors directement Section d'Assaut. Oh là, Sgarblux qui dégaine. Regarde, là on a les Shazam du chat. Programme d'adulte, Section d'Assaut, c'est exactement ça, c'est ça.
Allez. Bah, oh là là ça. Là et là. Ça en tournée, je la chante tout le temps et donc je casse les couilles à mon tour manager et donc il finit par la continuer mais en faisant que les gestes et moi je chante et c'est n'importe quoi.
Un banger, problème d'adulte, un banger comme on dit. Ouais, et il Tara dans le chat qui demande, c'est vrai que tu as évoqué tout à l'heure Green Day et Superbus qui ont été énormes pour toi, enfin Green Day surtout 2005, t'en parlais. T'as un morceau Green Day en particulier pour qu'on puisse l'ajouter dans la playlist peut-être
Green Day. Je dirais Basket Case hein, pour changer.
Oh là là.
Bah ouais, je sais.
Bah ouais,
et Superbus, ouais. C'est d'office Jen, je t'aime. Parce que chaque fois que je l'écoutais, j'étais comme moi aussi.
Oh là là là, mais so horny, vraiment. Mettez-la en prison, ouais, si vous... La horny jail.
Ouais, j'avais 14 ans, hein, donc...
Bah oui, je comprends. Bah oui, on est en émoi, évidemment.
Et elle, genre 30, donc ça va.
On va arrêter l'émission là-dessus. Ah, ciao, c'est bon. Envie de réécouter. Tu vas donner envie de réécouter Superbus à tout le monde là dans le chat.
Écoute,
Fanny, je voulais te remercier. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble, tranquille. Désolé encore pour les problèmes techniques qu'il y a eu un peu au début et pendant toute cette émission.
Ça fait partie de Twitch.
Ça fait partie de Twitch. D'ailleurs, je me suis permis, parce qu'en fait, il y avait déjà une commande qui existait dans le chat, Fanny, avec tes réseaux. Je me suis permis d'enlever ta chaîne Twitch parce que j'ai vu que t'étais pas hyper actif sur Twitch.
C'est vrai que ça a vraiment duré une semaine de confinement, cette histoire.
Non, mais c'était drôle, c'était drôle. Si vous voulez retrouver d'ailleurs Fanny, je le rappelle, commande Fanny dans le chat pour retrouver tous ses réseaux, notamment son site internet où vous avez toutes les dates de son spectacle, donc qui s'appelle Bon Anniversaire Jean, que tu joues un peu partout en Belgique, en France, au Luxembourg, tu le disais, et au Canada. Donc n'hésitez pas à la retrouver. D'ailleurs, tu peux faire un peu la promo si tu as une, si tu as une catchline, un truc tout fait. Voilà, mais en tout cas, on peut tout retrouver sur ton... Sur ton site internet, en tout cas, on peut tout retrouver. On peut même retrouver toutes les vidéos que tu fais, que ce soit les chroniques France Inter, les passages Montreux, parce que c'est quand même aussi, c'est quand même des choses assez importantes, les passages à Montreux. C'est une grosse visibilité. Puis je sais qu'elles sont travaillées, les vidéos de Montreux aussi, tout le contenu autour de Montreux. Je sais que pour les humoristes aujourd'hui, en plus, je t'avais raconté une fois en story que tu as littéralement croisé un de mes potes qui travaille maintenant pour le festival de Montreux. Oui. Ouais, tu as croisé un de mes potes là-bas. Et surtout, la bande originale de La Vie de Fanny, qu'on a remplie au fur et à mesure, elle est disponible sur Spotify. Donc, n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez réécouter les morceaux dont nous a parlé Fanny. Est-ce que tu veux mettre en avant quelque chose pour terminer Crazy Frog. Ok, let's go. Ouais. Oh là là, Crazy Frog. T'en as une en partie. Est-ce que c'est le tube ou est-ce que
ouais,
tu es une...
Axel F. Axel F, c'est vraiment... Mais d'ailleurs, là, je suis en train de terminer un roman. Et la phrase, tu vois, les auteurs souvent ils mettent une phrase, une citation au début. Moi j'ai mis les chansons, les paroles de Crazy Frog. Parce que c'est ma vie.
Donc tu as mis, donc littéralement tu as mis bleb 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 bibi bibi. Voilà, c'est ça. Bien ce que je pensais. Ah bah j'achète, tout le monde va acheter ce bouquin. Bah écoute. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté mon invitation. Je te dis au revoir. Je vais te dire au revoir en off. Je vais prendre 30 secondes pour dire au revoir au chat. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Merci à celles et ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qu'on follow la chaîne. Merci, hein, je vous ai pas remercié, mais voilà, j'étais en plus occupé par les problèmes techniques ce soir. Mais merci à toutes et tous. Cette émission sera disponible en replay sur la chaîne YouTube et en podcast audio. Si vous voulez retrouver tout ça, vous faites la commande Veridisco directement dans le chat et vous avez le lien vers les anciennes émissions sur YouTube et tout ce qui est disponible en podcast. Donc voilà, l'émission avec Fanny va aussi être là-bas. Je vais devoir, à mon avis, faire beaucoup de montage et de réglages techniques. Ça sent audition. Ça sent Adobe Audition et Adobe Premiere, ça. À fond, là. J'adore. Non, mais merci beaucoup. Merci, Fanny, vraiment.
Est-ce qu'un jour, quand tu feras la toute dernière émission de Flonflon Musique, tu vas l'appeler le dernier jour du Veridisco ?
Oui. Oh ! La ref ? Joli. Eh ben, je vais l'appeler comme ça, tu sais quoi ? Je l'appellerai comme ça, je dirais. Tu vas demander des copyrights.
Oh là, évidemment.
T'es organisé, l'argent. Tu vas me dire, non mais excuse-moi, mais là c'est 25% de.
Alors là, la SACEM est à ta porte.
Oui. Excusez-moi, c'est ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour un nouveau numéro de Veridisco, parce que Veridisco, surtout ce mois de septembre, j'ai réussi à caler un invité tous les mercredis. Je suis trop content. D'ailleurs, Fanny, ça fait depuis des mois qu'on avait discuté de que tu viennes et je suis trop content que tu sois venu. La semaine prochaine, il s'agit de l'auteur et youtubeur Aurélien Prévost, qui sera mon invité la semaine prochaine dans Veridisco à 18h et qui nous parlera des morceaux qui ont marqué sa vie. Rendez-vous la semaine prochaine pour tout le monde. Et puis, Fanny, bonne soirée à toi. Merci encore. Et puis, restez curieux. Ciao, ciao, ciao.